Bon midi! Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Midi une exactement. Je sens que cette émission va vous faire réagir. Alors, je vous le dis tout de suite. 418-971-1021, le numéro pour nous joindre en par texto. 418-780-1021 par téléphone. Cherchez comment nous écouter. Vous êtes là, je suis dans mon auto, mais il va falloir que je retourne travailler. La web radio, blvd.fm. Également, BLVD 101, c'est notre application. C'est disponible sur App Store, Google Play Store gratuitement. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Le même petit haut-parleur intelligent qui traîne pas loin de vous. Vous êtes écouté BLVD. Et nos voix apparaissent immédiatement à l'endroit où vous êtes. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Les meilleurs moments de Boulevard s'y retrouvent, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini qui va suivre dans quelques instants. À la météo, bien, ça a été une journée bizarre. Ça a commencé avec énormément de vent. Présentement, moins 5. Il peut y avoir de la neige dans certains secteurs. Ça va cesser en après-midi. Par la suite, ça va être généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Risque de bourrasque de neige cet après-midi. Poudrerie par endroits tard cet après-midi. Donc, soyez prudents au retour à la maison parce que ça va être des vents du sud-ouest à 60 km/h. Cette nuit, ça va être partiellement nuageux. 60 % de probabilité d'averse de neige tôt en soirée. Il y aura également de la poudrerie par endroit. Et demain, c'est le retour du soleil à moins 5 degrés. Pascal CV, Antonine Iaccarini, vous allez bien?
Salut, oui.
Très bien. Moi, je l'ai pogné la bourrasque de
neige. Ah ouais, t'as pogné ça, toi?
Bourrage de Nesque.
Ouais, c'est ça, j'ai eu un peu misère à le dire.
T'avais-tu de l'électricité, toi, ce matin, dans ton secteur?
J'en ai manqué un peu. Moi, je me suis fait réveiller à comme 4h30 du matin par le vent.
Badoum, pah!
Ah, ça frappait. Je me suis levé à 3h40, mais ça frappait dans les fenêtres chez nous.
Puis tantôt, quand je m'en venais vous voir, là, à un moment donné, je jasais sur mon Bluetooth là, avec mon ami. Là, puis à un moment donné, je suis comme, voyons, je suis comme dans un blizzard. C'est arrivé de nulle part.
C'est vrai que c'est paniquant, ça, quand tu prends ça sur la route. C'est comme, hey, tu deviens dans un mur blanc.
Puis les deux mains sur le volant, là, c'est l'expression pour...
Ouais, à 10h10.
Oui, oui. C'est là où nos cours de conduite ressortent.
Vraiment, vraiment, vraiment. Pascal, tu tiens le fort à pas avoir fait le point de max?
Oui, je suis encore là. Oui, c'est pas beaucoup de pause. Mais l'actualité, surtout, me tient en mille.
Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Il faut beaucoup tout de vérifier. Nouvelles différentes. Et parlant de ça, qu'est-ce qu'on retient en manchette avant le caucus avec Antonine Iaccarini?
Mais d'abord, les pannes d'électricité, c'est un peu partout dans la province. On est au-dessus de 250 000 adresses touchées. Et on ne fait pas exception à la capitale nationale. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'agent Cartier, c'est compliqué pour Portneuf, c'est compliqué également pour tout ce qui est secteur de l'aéroport. Sainte-Foy, extrêmement touché également. Donc, je te dirais que c'est un peu partout dans la région. Même chose pour Chaudière-Appalaches. Donc, c'est les bourrasques de vent qui ont cassé des branches, qui ont obstrué tout ce qui est réseau d'Hydro-Québec. Je parlais ce matin à la porte-parole, puis ce qu'elle l'a dit, c'est que ça devrait être résorbé, puis ça devrait être replacé d'ici l'arrivée à la maison cet après-midi avec les enfants, l'heure du souper, les bains et tout ça, vous devriez être correct. Elle a dit qu'en fin de journée, ça devrait être rétabli. Les grands vents à Québec, ben ça fait jaser aussi sur le pont Pierre-Laporte, puis ça a pas mal obstrué le secteur. On est toujours dans une difficulté. Il y a un gros ralentissement parce que il y a un camion qui a renversé sur le pont Pierre-Laporte. Là, il faut faire attention à comment on le dit. Hein, il est tombé dans l'eau? Non. Hein, y a-t-il des blessés? Non. Il a vraiment juste versé un peu sur le côté, ce qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas revenir sur toutes ses roues puis continuer, puis ça a créé le bouchon de circulation qu'on a connu dans les deux sens. Personne n'a été blessé, c'est la bonne nouvelle, mais avec des vents, des rafales qui atteignaient entre 70 et 90 km/h sur le pont Pierre-Laporte, il faut redoubler de prudence et c'est arrivé malheureusement pour ce chauffeur-là de se faire renverser. Agression sexuelle en position d'autorité, eh bien, il y a un ancien député du Bloc québécois qui a été arrêté à Québec. Il s'appelle Pascal-Pierre Payet. Il a 47 ans. Il a été député de 2008 à 2011. Et là, il s'est fait mettre la main au collet. On est allé chercher dans le secteur de Saint-Augustin-des-Morts ce matin. C'est un enseignant de formation. Et le Centre de services scolaires de la capitale a confirmé par ailleurs qu'il était hors et suspendu des murs de la commission scolaire depuis plus d'un mois en raison d'une troublante histoire. Ce sont des accusations qui devraient comparaître au Palais de justice de Québec cet après-midi pour un événement en 2006 et un autre en 2024. Et dans le Journal de Québec, on a eu accès à Matisse, une présumée victime qui a raconté un peu son histoire. Travaux du tramway, les déplacements sont perturbés dès samedi. Ça fait écho et on n'en jase pas assez. Sachez-le, là, dès samedi, trajet d'autobus modifié, ajout de sens unique, retrait de cases de stationnement, beaucoup de changements liés à la mobilité qui vont entrer en vigueur. Et ça, ça coïncide avec le déploiement du nouveau réseau du RTC. Il va falloir vérifier autant sur les sites de la ville qu'au RTC. Et je termine avec Donald Trump. Donald Trump a pris la parole dans la dernière heure. Détroit d'Ormuz, il dit « Ah, j'avais besoin de l'OTAN, mais finalement, j'en ai jamais eu besoin. » C'était sa prise de parole. Et on a appris également que il y a Joe Kent, c'est le chef du contre-terrorisme qui accuse Donald Trump de s'être fait avoir par Israël en Iran et il a démissionné. C'était directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme et dit « On n'a rien à voir dans ce conflit-là actuellement. On n'aurait jamais dû prendre les armes et on n'aurait jamais dû attaquer l'Iran. »
On va avoir Éric Sauvé, ex-haut gradé des Forces armées canadiennes avec nous aux alentours de 12h40 justement pour parler de ce conflit au Moyen-Orient. Place au caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini, bombe médiatique par la presse ce matin concernant les fameux textos de Brownies qui avaient été publiés par le Journal de Québec, Journal de Montréal. On se rappelle le tout avec Pablo Rodriguez immédiatement.
Qu'on attribue à certaines personnes, chacune des deux personnes, là, c'est pas quelqu'un sur le coin de rue, chacune des deux personnes qui sont des députés de deux partis différents disent que refusent ça et menacent même de poursuites. Alors, ce qui est vrai, ce qui est prouvé là-dedans, j'ai aucune idée.
Le juge Fournier, dans son rapport, le juge qui avait été mandaté par le Parti libéral du Québec pour faire la lumière sur ceci, avait dit « Je ne peux pas valider l'existence même de cette série de textos ». Et là, c'est dans un article de la presse, l'UPAC qui se pose de sérieuses questions si ces textos ont déjà existé, à savoir si ça ne serait pas un montage.
Parce que ça se peut que ce soit un montage.
Mais là, qui en voulait à ce point à Pablo Rodriguez si c'est un montage?
Bon, d'abord, l'UPAC dit qu'elle doute de la validité de ces captures d'écran de textos, supposément entre deux députés qui parlent finalement de payer des gens pour voter dans le cadre de la course à la direction du Parti libéral. L'UPAC doute, le juge Fournier doutait. Bon, le juge Fournier, il était engagé par le Parti libéral. Il a dit lui-même que c'était un chien édenté et qu'il n'y avait pas les moyens pour...
Exactement. Faut que l'on s'est dit bof.
Mais là, l'UPAC, bon. Je pense que douter, c'est la chose à faire. Il le faut parce que c'est tellement facile de produire ce genre d'image-là. Et là, je ne veux pas remettre en question la probité de Québécois. Eux disent qu'ils ont fait les vérifications. Ils ne veulent pas trop embarquer dans les justifications parce qu'il y a une question aussi de protection des sources. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable de démontrer sans dire « Ah, oh, c'est telle personne qui me l'a envoyé ». Il faut quand même être en mesure de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que c'est véridique. Sinon, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est vrai. C'est pas... Le fardeau de la preuve, c'est toujours du côté de l'accusation. C'est pas du côté de l'accusé. En politique, c'est un peu plus compliqué qu'au tribunal. Pablo Rodriguez le sait.
Oui, c'est ça. Il y a le tribunal public.
Et voilà. Et aussi, il faut comprendre pourquoi... Moi, la question que je vous pose, c'est, à votre avis, pourquoi on y a tant cru? Ben, c'est parce qu'il y a un passif au Parti libéral. Les gens, ils croient que ça se peut parce qu'il y a une historique au Parti libéral qui fait qu'on se dit, ben oui, encore les mêmes magouilles. Donc, il y a ça aussi que le PLQ
en effet
doit traîner. Et autre élément, c'est que même si ces textos-là n'étaient pas véritables, puis après ça, je vais te dire mon hypothèse, mais si ces textos-là n'étaient pas véridiques, ça ne change pas le fait qu'Emmanuel Cabral a avoué avoir payé des gens lui-même avec
en
l'argent
effet.
Cash.
Ça, c'est la fameuse rencontre à son domicile.
Soirée de financement.
Où Pablo Rodriguez est. Puis là, ben, on dit aux gens, « Hey, quand V'là des 100 piastres, mettez votre nom sur la liste, puis on est parti pour la gloire avec Pablo.
Ça, c'est arrivé, il l'a avoué. Il a dit ce qu'il veut chez eux.
Ça, c'est vrai. Il s'est postiné. La location dans l'immeuble de sa femme, c'est vrai aussi. Pablo Rodriguez ne l'a jamais réfuté.
Exact. Rien d'illégal là, mais l'éthique.
Ouais. Rien d'illégal, mais la morale, on repassera.
Donc, tout ça est vrai. Il y a encore une enquête en cours à l'UPAC. Il y a encore une enquête en cours au directeur général des élections. Tout ça existe et cohabite avec la poursuite Geneviève Vince, Marois Risky, qu'on ne connaît toujours pas exactement le lien entre cette affaire-là et l'histoire des textos. Maintenant, je reviens à la véracité ou non de ces textos-là. On se dit, qui a intérêt à faire ça et pourquoi?
Oui, ben, c'est quelqu'un qui voudrait le trône.
C'est pas Marois Risky certain, parce qu'elle était dans la campagne à Pablo Rodriguez.
Fait que quelqu'un qui veut le trône. Charles Milliard, Carl Blackburn.
L'UPAC nous dit qu'elle n'a pas de raison de croire que ça vient des équipes de ces candidats-là. Donc, il n'y a aucune démonstration. Après ça, est-ce qu'on peut prouver le contraire? C'est la même chose pour l'instant. L'enquête se poursuit. Il faut dire aussi que des informations comme ça qui coulent d'une enquête, ça peut être premièrement des fuites, mais ça peut aussi être un ballon d'essai. Donc, on lance ça dans les airs en se disant, bien, peut-être que les personnes vont vouloir se manifester auprès de nous et dire, un instant, c'est pas un montage, c'est arrivé. Je veux une protection, une immunité en échange des informations. Tu sais, on sait pas. Des fois, les policiers veulent faire bouger les choses. Puis l'UPAC a des précédents en termes de coulage d'informations.
En
on l'avait
effet.
Vu dans l'enquête Machuret.
Ben, d'ailleurs, à cet effet-là, Yannick Marceau, dans Marceau le matin, ce matin, il disait avec raison, il y a quelqu'un qui a appelé les journalistes pour dire « Hey, l'UPAC s'en va chez Marois Risky ».
Oui, il paraît que c'est Marois Risky. Mais en tout cas, ça, c'est la rumeur qui circulait. Maintenant, qui a intérêt et pourquoi? Ben, des fois, c'est l'explication la plus niaiseuse qui est la vraie. Okay? Moi, dans le temps, quand je travaillais en politique, des fois, il y a des affaires qui coulaient dans les journaux. Puis, je me disais, ben voyons, qui a intérêt à faire ça? Puis là, j'essayais de trouver la personne qui faisait la tactique, puis comment ça allait. Souvent, là, c'était des affaires tellement niaiseuses. C'était finalement quelqu'un qui voulait se rendre intéressant. Quelqu'un qui a fait une joke à quelqu'un. Et je n'ai jamais exclu que ces textos-là, là, c'était deux personnes qui faisaient un peu une blague ou deux staffers ou deux membres d'équipe qui ont fait une fausse discussion et que finalement se disent maintenant « Tabarouette, ça a escaladé vite, cette affaire-là. »
Es-tu en train de me dire qu'on pourrait partir d'une niaiserie, voire une blague, et ça aurait mené à la démission de Pablo Rodriguez?
Je ne l'exclus pas. Là, à te dire c'est quoi les chances exactes que ce soit arrivé par rapport à autre chose, je ne me prononce pas là-dessus. Mais des fois, c'est des niaiseries qui partent des tempêtes. Puis tu sais, le journal a publié ça. Il n'a pas publié les noms. C'est Cogeco qui a publié les noms.
Oui.
Là, il y a comme des petits morceaux qui s'ajoutent, puis il y a aussi la course au scoop là, là-dedans. Là, puis tout le monde
vraiment
en rajoute un peu. Après ça, quand on a lancé ça dans l'espace public, à travers la crise de Marois Risky, bien, là, les informations se mettent à rentrer aussi. Hein. Quand tu commences à... Tu sais, tu fais un article sur un sujet, puis là, il y a d'autres personnes qui disent hey, « moi aussi, j'ai vu ça. Hey, moi, j'ai vu quelqu'un qui a donné 100$. Moi, nanana. »
Premièrement, par texto, les auditeurs disent que t'en sais beaucoup trop, donc c'est toi.
Ah, oh, c'est moi! Hey, là, là.
Deuxièmement, admettons que j'ai inventé la séquence de texto pour rire. Mais là, je creuse encore plus.
Ou pour nuire.
Et là, je creuse encore plus dans l'hypothèse pour nuire parce que je me dis, hein, si je sors ça, là, ça va se savoir la petite soirée chez Cabral. Ça
peut-être
va se savoir le petit local. Ça va se savoir l'autre affaire. Puis là, bingo, il est foutu.
Oui. Ou alors, parce que je vous rappelle qu'au départ, il y avait deux députés, une libérale et une caquiste, qui étaient concernées.
Ouais. En effet.
Est-ce qu'on veut plutôt nuire à la députée caquiste?
Mm-hmm.
Donc, les possibilités sont infinies.
Chose certaine, c'est pas à CAQ qui voulait nuire à Pablo Rodriguez. François Legault nous l'a dit off the
record.
Il voulait Pablo comme adversaire.
Donc, puis il aurait gardé ça pour plus tard. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui arrive des fois. Hein. Les journalistes ou les opposants ont une information, mais préfèrent attendre un petit peu un meilleur timing pour la sortir.
Ouais.
Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'il faut être prudent avec ce genre de nouvelles-là. Ça efface pas tout le reste qui est autour, mais même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pablo Rodriguez, qu'on soit libéral ou pas libéral, n'importe qui peut faire l'objet d'un montage un jour dans sa vie, puis être pogné pour se défendre de quelque chose. Donc, soyons prudents, soyons rigoureux. Continuons de se dire qu'il y a beaucoup de possibilités différentes entourant ces textos-là et laissons l'UPAC, évidemment, faire son enquête.
Exactement.
Et soyons ouverts d'esprit, on va dire ça comme ça.
En effet, t'as entièrement raison. C'est une très, très belle mise en garde, mais t'en sais beaucoup, Antonine Iaccarini.
J'ai l'air de même, mais je parle absolument
je
à travers mon chapeau.
Je vais commencer à surveiller mes arrières. J'ai pas le choix.
Oui, d'ailleurs, il y a une capture d'écran. Là, tu as une discussion avec quelqu'un là, qui a commencé à circuler.
Ah oui?
Ben non.
Je vais aller voir ça. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est de midi à 12h30 du lundi au jeudi à l'émission On en jase à Boulevard 101. Gaz de schiste!
Hey!
Christine Fréchette nous a ramené ça. J'ai dit, mais my God, on est de retour dans les années 2010, même les années 2000.
Retour vers le futur.
Retour vers le futur, les années, justement, de Pauline Marois. Avant qu'on passe sur le débat, hey, on rouvre-tu ça, on rouvre-tu pas ça, gaz de schiste, explique-nous qu'est-ce que l'exploitation de gaz de schiste.
Oh mon Dieu, ben là, je suis pas une spécialiste. Mais le gaz de schiste, c'est du gaz qui est présent dans le sol et qui demande une fracturation. Donc déjà, ça, c'est toujours un peu controversé parce qu'il y a des conséquences environnementales. Et il y a quelques années, le Québec s'est penché sur le potentiel d'exploiter ce gaz naturel qui est présent dans certaines régions du Québec, notamment le centre du Québec. Et il y avait un documentaire notamment qui était sorti aux États-Unis puis qui montrait que c'était épouvantable puis que l'eau pognait un feu dans les robinets. Puis il y avait eu vraiment là, un débat.
Oui, d'ailleurs, il y a eu une grosse montée aux États-Unis au début des années 2010, mais une fracture, c'est le cas de le dire, en 2016, où on a dit, bah, savez-vous pourquoi on pourrait être un petit peu plus lent à développer cette technologie-là ou à extraire ce minéral-là?
Ce qui faisait scandale aussi, c'est que, scandale, c'est que c'est vraiment dans la cour des gens. C'est-à-dire qu'à quelques mètres de chez vous, vous avez un puits à gaz qui comporte certains risques, en plus des conséquences environnementales de la fracturation. Et on était dans des années où on parlait de développer davantage de l'éolien. Il y a eu aussi des années où Hydro-Québec était dans des surplus. Donc, finalement, ça avait été laissé tomber parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, mais je mets un gros bémol à ça, parce qu'on n'est pas capable de définir c'est quoi l'acceptabilité sociale au Québec. C'est un de nos problèmes. Mais aussi parce que le besoin n'était pas non plus criant pour ce type de gaz-là. Mais là, le contexte a changé un petit peu sur la scène internationale.
Oui, en effet. Là, avec tout le respect que j'ai pour Christine Fréchette, elle va quand même être une première ministre de passage si elle gagne la course à la chefferie de la CAQ au mois d'avril. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon temps de sortir justement ce dossier-là qui était rempli de poussière là, dans une étagère? Je veux te faire entendre la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouvais ça intéressant. Il l'a fait en conférence de presse tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon risque d'être le prochain premier ministre au Québec. Voici ce qu'il avait à dire sur l'exploitation du gaz de schiste.
Le débat est final, à mon avis. Il a été fait. Donc, le gaz de schiste, le problème est le suivant. Il y a un véritable risque de contamination des nappes phréatiques. Il y a un empiètement véritable sur les activités humaines, dont l'activité de nous nourrir, là, l'agriculture, et touchée par cette activité-là. Les bénéfices pour la société ne sont absolument pas comparables aux risques puis aux problèmes générés par cette industrie-là. Et au final, on a retourné de tous les côtés cette option-là pendant des années au Québec. Le débat a été fait, puis ça a débouché sur une loi, qui est la loi de la CAQ elle-même, là. Donc, de notre côté, la qualité de l'eau, la qualité de l'environnement, la qualité de l'agriculture, mais également le fait qu'une fois que le puits est terminé, les entreprises laissent ça en plan, avec des conséquences financières immenses pour l'État, là. Tous ces facteurs-là militent pour le maintien de la décision de 2022.
Pour moi, ça fait plein de sens que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit ce matin. Je te pose la question, Antonine, si je veux sortir des sentiers battus du côté de Christine Fréchette, parce qu'on ne se le cachera pas, même si elle a l'air en avance dans les sondages, c'est Bernard Drainville qui contrôle l'agenda politique de cette course-là avec déclaration par-dessus déclaration. Arrêtes-tu pas plus choisir, exemple, l'exploitation du gaz naturel plutôt que le gaz de schiste? Ça me semble plus logique.
Bien, le gaz de schiste, c'est un gaz naturel. C'est simplement dans la manière dont il est réparti.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire, là.
Donc, en fait, c'est que ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit, c'est rigoureusement vrai. C'est un débat qui a eu lieu, ça a été évalué, les inconvénients dépassaient les avantages. Mais il y a eu un changement majeur depuis ce temps-là qui est le contexte international et la rareté de l'énergie. Hein, on en a beaucoup plus besoin. Hydro-Québec était dans des surplus il y a quelques années. Maintenant, au contraire, on cherche des manières de sortir un peu plus du pétrole. On a des projets industriels qui demandent de l'énergie. Le gaz naturel peut être une forme d'énergie qui soit utilisée, quoique c'est quand même... On est dans une lutte au changement climatique, puis c'est vraiment pas l'idéal, le gaz naturel, à ce titre-là. Et on a des pays européens qui cherchent de l'approvisionnement en gaz naturel. Mais avant de penser exploiter du gaz naturel ici, bien, l'Ouest canadien en produit déjà. Okay? Mm-hmm. Puis c'est sûr, c'est pas au Québec. Mais il me semble que la priorité, c'est davantage de construire une manière de transporter vers l'Est et de l'exporter vers l'Europe si vraiment on veut aller là-dedans, plutôt que de commencer à fracturer dans le cours des gens, de repartir un mélodrame. Donc, sur le fond des choses, je ne suis pas convaincue de la pertinence, mais pourquoi ne pas l'évaluer? Par contre, Mme Fréchette, elle aurait pu évaluer ça en privé avec ses ministres une fois élue à la tête de la CAQ.
Bien, c'est ça, là.
Elle décide d'envoyer ça dans l'espace public. Pourquoi? Tu l'as dit, Bernard Drinville a été à l'attaque pendant cette course à la chefferie-là. Et là, on tombe dans la tactique politique et c'est fascinant parce que Bernard Drinville, là, il a été porte-parole en matière d'énergie au Parti québécois. Et ses positions sur le gaz de schiste étaient très, très claires. Et comme caquiste maintenant, il veut se positionner comme un petit peu plus conservateur, un petit peu
plus à droite.
Plus à droite
en
on
effet.
Veut exploiter nos ressources, lâchez-moi avec les GES. Donc là, Madame Fréchette, elle le met dans une situation, Bernard Drinville, où naturellement, pour sa course, il devrait être d'accord avec ça. Mais là, on peut le mettre en contradiction avec ce que Bernard Drinville de 2013-2014 disait.
Il n'y aura pas de misère à se défaire de cette contradiction-là parce que sur nos ondes, justement, vendredi dernier, lorsqu'il a répondu aux questions des auditeurs, c'est disponible sur le blvd.fm, c'était dans l'émission Marceau le matin. Et il l'a dit, tu sais, moi, ma pensée a évolué au cours de ma carrière politique et voici pourquoi je suis rendu là. Bon, là, tu fais des gros yeux, on peut le croire ou pas le croire. On
peut avoir envie de mettre en exergue le grand écart et les contorsions de M. Drinville pour nuire au niveau de confiance des électeurs par rapport à sa personnalité qui est déjà challengée dans l'espace public quand on regarde les sondages de satisfaction et d'appui à M. Drinville. Donc, c'est win-win pour Christine Fréchette parce que là, elle fait juste dire « Oh, j'ouvre la porte, on y pense », tu sais, puis ça l'engage absolument
en effet.
À rien. Puis M. Drinville se retrouve à réagir à ce qu'elle dit. Et en plus, on a une contradiction entre Bernard Drinville péquiste puis Bernard Drinville caquiste.
Mais là, tu sais, je vais te donner mon opinion et je vais la donner de façon très brute, là. Ça m'énerve quand on sort d'une course à chefferie pour sortir n'importe quoi des boulamites, là. Ben, je veux dire, le gaz de schiste, c'est un auditeur ou une auditrice qui nous écrit ça, tu sais. C'est un problème d'une technologie d'un autre temps. La technologie a évolué. Il faut savoir avancer et reconnaître que c'est plus ce que ça a déjà été. Moi, j'aime autant mieux qu'on parle des projets de gazoduc, justement, à Baie-Comeau, au Saguenay.
Puis on a de la misère, Jeff, à mettre des éoliennes au Québec en ce moment. Le monde, il y a des gens qui ont le pas dans ma cour pour des éoliennes.
Mais en plein
Est-ce qu'on
ça.
Veut utiliser nos cartouches d'acceptabilité sociale pour cette forme d'énergie-là? Honnêtement, puis tu sais, si vous voulez utiliser des cartouches d'acceptabilité sociale, là, sans m'étendre sur le sujet, le nucléaire, c'est pas mal plus prolifique en énergie, puis pas mal moins dangereux pour l'environnement
T'as entièrement
que
raison.
Le gaz de schiste. Donc, tu sais, moi, je pense pas qu'elle veut vraiment aller de l'avant, sinon elle l'aurait fait évaluer. Bon, elle était au ministère de l'Énergie depuis...
Mais c'est ça, là.
Elle le sait bien, là,
mais
déjà.
Oui,
fait
que
c'est pour la course.
Pas.
Et ça nous amène finalement à dire que cette course-là, là, il est temps que ça finisse.
Il est temps que ça finisse parce que là, c'est des aberrations qui sortent de part et d'autre.
Et les propositions sur le prix de l'essence aussi. Mm-hmm. Là, si j'étais Éric Girard, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, là, j'aurais roulé des yeux là, en disant hey, j'essaie de boucler un budget, j'essaie de combattre le déficit. Puis là, vous m'arrivez avec des propositions de coin de table. Il est temps que ça finisse.
Des propositions de gaz, de schiste et des propositions qui ne font pas du tout de sens. Antonine et Pascal, vous n'étiez pas là vendredi et j'ai fait jouer cette chanson-là pour parler de Mark Carney. Mais là, ça va également, cette chanson-là, être très bon pour Bruno Marchand.
Voyage, voyage.
Les auditeurs me disaient à rentrer dans la tête. J'ai chanté toute la fin de semaine.
Dans l'espace, inouï de l'âme.
Aimez-vous ça? On peut danser. Bruno en Alberta.
Bon, il va pas très loin, là.
Il va pas très loin, en effet. Il est pas comme Mark Carney, mais il est en Alberta, notre ami Bruno. Notre ami Bruno, il a amené Raymond Poirier, le conseiller municipal du district de Limoilou. Lui, ça s'adonne que c'est le responsable des communications pour les travaux du tramway auprès des citoyens. Ouais. Il a amené Jean-Luc Lavoie. Lui, c'est le conseiller municipal de Pointe-Sainte-Foy. Lui, là, ce qu'il fait, Jean-Luc Lavoie, c'est qu'il s'occupe des communications pour les commerçants. Et le 4 février dernier, Marie Langlois avait cet extraordinaire qualificatif pour M. Lavoie et son travail. Marie Langlois est la DG de la Société de développement commercial Montcalm, donc René Lévesque, Avenue Cartier.
Pour l'instant, il n'y a pas plus de réponses. Ils ne sont pas capables de nous donner de date. Fait que nous autres, on est comme figés. Comme moi, je suis figée, j'ai des événements qui s'en viennent. Est-ce que je vais être capable d'y tenir? Est-ce que les travaux vont être rendus là? Mes commerçants, tout le monde se pose des questions. Tout le monde est inquiet. Mais personne n'est capable de nous donner de date.
Alors voilà, personne n'est capable de nous donner de date. Donc Jean-Luc Lavoie, qui est en Alberta, n'est pas capable de prendre soin des commerçants. Étant un animateur très rigoureux, Antonine, j'ai texté Mme Langlois aujourd'hui pour lui demander « Pis, ça va-tu mieux, les communications? » Parce que là, Jean-Luc Lavoie, il est en Alberta, puis les travaux commencent le 21 mars. Elle m'a répondu « Bof! Il y a des ajustements à faire, mais il y a une volonté d'amélioration. » Hey, ça, c'est rassurant pour les commerçants, ça. Ben. Travaux commencent samedi. Mais là, le gars qui s'occupe de ça, il est en Alberta. Pourquoi? Parce qu'il est parti faire un...
Voyage, voyage!
À quoi que vous allez la chanter?
Je l'ai constamment dans la tête depuis 20 ans. Fait que ça sera pas nouveau.
Hein? C'est un hit pour toi, ça?
Ah oui, vraiment.
Voyage, voyage.
Ça manque de sérieux.
Bah, écoute. Je ne peux que dénoncer et appuyer les commerçants s'ils manquent d'informations pour le tramway. C'est déplorable. Est-ce que le timing est problématique? Certainement. Est-ce que la validité de ce voyage-voyage-là est à remettre en question puis jeter le bébé avec l'eau du bain? Je dirais que non. Parce que, honnêtement, ça va être gros, là, le tramway. Là. C'est un énorme projet. Et l'Alberta, il y a deux projets de tramway qui existent depuis la fin des années 70, début des années 80. Mm-hmm. Donc, moi, je m'attends aussi à mon administration municipale, de la part de mon administration municipale, d'aller chercher les meilleures pratiques, mais aussi d'éviter les erreurs du passé si elles sont à éviter. Donc, c'est pertinent. C'est juste le timing est ordinaire. En même temps, quand est-ce que tu voulais qu'il aille?
Je suis très d'accord.
À Noël?
Je suis très d'accord et je suis jamais contre le fait que le maire va aller à l'extérieur pour aller chercher de l'expertise. Par contre, c'est là. Ça commence samedi.
Oui.
L'Alberta, ça aurait dû être au printemps passé.
Oui, dans le premier mandat.
Ouais.
De M. Marchand.
C'est ça. Mais est-ce qu'on n'est pas allé parce qu'on s'est dit, faut pas montrer qu'on n'est pas en contrôle de la situation? Puis là, on y va là coller sur l'échéancier?
Je sais pas. Je pense que sur le timing, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ça se passe maintenant. Surtout que, tu sais, moi, je veux qu'on apprenne des erreurs du passé. Je veux savoir comment on a
entièrement
fait
d'accord.
Dans des villes de grandeur similaires en passant. Là, maintenant, c'est rendu un peu plus gros, Calgary puis Edmonton. Mais dans les années dans lesquelles ils ont, eux, construit ces projets-là, qui sont la colonne vertébrale de la mobilité dans ces villes-là. C'est vraiment la même chose, avec des technologies qui se ressemblent. Je veux savoir comment ça s'est passé. En passant, il n'y a pas juste des beaux projets. Là, le tramway à Ottawa, là, ça a été pas un super exemple. Évidemment, je pense aussi qu'on va apprendre des leçons du REM, espérons-le.
J'espère que c'est des PQ infra.
C'est ça. Donc, il faut apprendre de tout ça. Puis c'est mon attente envers eux. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Peut-être aussi que le timing n'est pas bon au niveau des communications avec les commerçants, mais que le timing est quand même assez bon au niveau du moment et du niveau d'avancement du projet. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère à leur garrocher des pierres.
Mais tu sais, on se pose toutes ces questions-là, mais ils auraient pu y répondre. Puis ça, c'est un problème majeur à la ville de Québec parce qu'on ne s'y poserait pas si on était transparent dans où on est rendu. Puis on accepterait de se faire challenger là-dessus, dans le sens où si on a attendu trop tard avant d'y aller puis que ce n'est pas la bonne semaine, puis qu'on se fait questionner là-dessus, puis qu'on pogne pas les mouches, puis qu'on fait « Savez-vous quoi? OK, oui, vous avez raison. » On va bien plus être collaboratif là-dedans. Je me trompe-tu?
Non, mais c'est vrai que l'enjeu de communication revient tout le temps. l'enjeu d'attitude et d'ouverture et d'écoute revient tout le temps. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné. Ce n'est pas un grand complot là, pour faire paraître la ville comme qui n'écoute pas puis dans le fond, il écoute vraiment. Il y a sûrement quelque chose à améliorer. Mais maintenant, la mission est prévue maintenant. Faites-la. Après ça, j'imagine qu'ils ne partent pas deux mois non plus.
Moi, je fais juste décrier le fait que les deux conseillers municipaux qui sont responsables des communications à quelques jours du début des travaux, ne sont pas disponibles pour les citoyens et les commerçants.
Oui, c'est ça. C'est plus la disponibilité, à mon avis, l'enjeu.
Exactement. À un moment donné, je dis toujours, si tu vas en mission, il faut que tu t'assures que ce qui est sur le terrain est bien géré. Et là, au dire de Marie Langlois, au dire des commerçants, c'est pas bien géré.
C'est pas
Donc,
optimal.
Je comprends pas ce que Jean-Luc Lavoie fait là-bas. Les gens par texto sont pas mal d'accord avec ceci. Carl, d'ailleurs, qui mentionne il aurait pu y aller il y a deux ans. Mais en effet, parce qu'en 2022, le Journal de Québec avait sorti un texte comme de quoi les ratés à Edmonton du tramway, on aurait pu aller voir les ratés là et s'inspirer. Ouais. Ça n'a pas été fait à ce moment-là.
Effectivement. Puis en conclusion, là, je change un peu de palier gouvernemental, mais tu sais, on parle de transparence puis de voyage. Moi, je pense que Mark Carney, notre premier ministre fédéral, est vraiment dû pour faire peut-être un discours à la nation ou une tournée d'entrevue parce que honnêtement là, tout le monde se pose énormément de questions sur ce qui se passe en Iran puis les négociations avec les États-Unis. S'il y en a un autre aussi qui aurait avantage d'avoir un peu plus de transparence, c'est bien lui.
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais Mark Carney, cette semaine, c'est vrai qu'il est en...
Voyage, voyage!
Pourquoi je dis ça? Il est en vacances en Europe!
Il est pas en vacances!
Ben oui!
Il était en Angleterre avec le premier ministre Starmer.
Ah, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine qu'il sera en vacances.
Vacances, vacances.
Parce que il poursuit son voyage à des faits.
Tout un globe
à des fins personnelles. Hé, j'aimerais ça être un politicien.
Mais pour
vrai, voyager.
Discours à la nation, tournée d'entrevue.
Hey, clairement.
Ça peut pas juste être Dominique Leblanc.
Non, non, non. Puis aussi pour l'émission qu'il a fait à l'étranger aussi, qu'on en sache un petit peu plus sur les retombées présentes et futures, parce que c'est bien beau voyager, faire 17 voyages. Puis j'ai pas de problème avec ça parce qu'on est en train de changer complètement notre façon de faire en économie. Mais maintenant, comme dans n'importe quoi, ça prend un petit rapport.
Un petit rapport, un petit retour sur investissement.
C'est ça, exactement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur. On se parle demain?
À demain.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, du lundi au jeudi, de midi à midi 30 dans l'émission Nangeas sur Boulevard 102.1. Précisément, midi 33 dans un instant à Boulevard 102.1. Éric Sauvé, ancien haut gradé des Forces armées canadiennes, va nous parler justement du conflit en Iran et de comment le Pentagone s'est mal préparé à cette intervention-là en Iran. Et également... la guerre, Pascal Séveille, la guerre, pas juste en Iran, entre Bruno Marchand et Sylvain Junot. Hier, on avait en entrevue Sylvain Junot, qui avait écrit une lettre aux médias disant « ça n'a pas d'allure qu'on abatte 1500 arbres alors que le financement du tramway n'est pas confirmé ». Aujourd'hui, Bruno Marchand réplique avec un document de 6 pages.
Ouais, mais il y avait le maire Junot, un peu passif-agressif.
Oui.
Le maire Marchand, assez agressif, là, avec des grands mots éloquents,
oui.
Mais on reste un peu politique, là, diplomate, mais bon. Et ensuite, t'as le maire Junot en entrevue avec nous hier, qui s'était calmé.
Oui.
Qui disait pour le tramway, qui n'était pas trop insurgé, qui voulait un peu, je pense, calmer la tension.
Séquence logique de
mais Bruno
financement.
Marchand n'avait pas dit son dernier mot.
Non, non, non. Après l'avoir traité de tout et non des médias qui l'accompagnent en Alberta, Bruno Marchand nous a envoyé aujourd'hui vers 11h30 un document de 6 pages pour dire à quel point Sylvain Junot, il a pas rapport. On parle de ceci dans un instant à Boulevard 102.
J'espère qu'on va pas revivre l'air, le houlier, la bombe. Là.
On est parti
cette fois-ci avec Saint-Hugues.
On est parti pour ça, Pascal Séveille.
Hébergement Rive-Nord, je vous en parle quelques fois par année, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire parce que c'est 6 ressources intermédiaires. Puis dans ces ressources-là, on héberge des résidents qui présentent une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Et ça a été fondé en 2015, donc c'est une équipe qui est continuellement à la recherche d'innovation. Ça fait à peu près 10 ans là, qu'on est en affaires, puis on permet d'améliorer littéralement la qualité de vie, la qualité des soins des bénéficiaires. C'est une équipe qui est passionnée, qui est dynamique, et à l'intérieur même, on a des éducateurs spécialisés, des intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux, mais encore plus parce qu'on veille tout le monde au bien-être quotidien des résidents, mais aussi à l'ambiance de travail. Puis qu'on se le dise, en 2026, l'ambiance de travail, c'est pas mal la priorité pour un employé. Hein. On veut se sentir bien, on passe plus d'heures avec nos collègues qu'à la maison avec nos proches. Donc, l'ambiance chaleureuse, elle existe dans le milieu de travail chez Hébergement Rive-Nord. Le travail, lui, consiste à intervenir auprès de cette clientèle-là. On travaille en collaboration avec des employés du réseau de la santé et des services sociaux. Puis on a des préoccupations bien claires. Participer à l'amélioration de la qualité de vie des résidents, animer leur quotidien, puis veiller au bien-être de chacun. Employé, je vous répète, comme bénéficiaire. Si vous avez des questions, vous aimez en savoir plus, vous voulez de l'info, www.hébergementrivenord.com.
Chez Céramix, on a...
En jase.
Émission en jase, il est précisément midi 42. Ton émission, on fait le tour de l'actualité la plus importante pour vous. Et également, on fait des analyses aussi de ce qui se passe. On va avoir une analyse, justement, d'Éric Sauvé, exo-gradé des Forces armées canadiennes. On va parler de la situation en Iran. Le Pentagone qui ne se serait pas bien préparé alors que l'Iran se prépare depuis 1980. Ça va être très intéressant comme discussion. Et également, on va parler de cette guerre entre le maire Marchand de Québec et le maire Sylvain Junot de Saint-Augustin-de-Desmaures concernant le projet de tramway. 418-971-1021, continuez à interagir avec nous, c'est toujours intéressant de vous lire. Et également, n'oubliez pas que sur le blvd.fm, c'est les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent immédiatement après l'émission. Pascal, en nouvelles, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir?
Oui, bien moi, je demande aux auditeurs au 88-971-102 un peu d'infos sur la circulation. Parce que quand je regarde les cartes actuellement, tu sais, il s'est passé des choses, là, notamment sur le pont puis à la porte, il y a eu un camion qui a versé.
Oui, ce fameux camion-là, en effet.
On a tassé le camion qui a versé de la chaussée, mais ça a vraiment ralenti le secteur. Puis ça a ralenti aussi comme Henri IV Sud, congestion entre chemin des Quatre Bourgeois et le pont Pierre Laporte. Ça, c'était toujours effectif dans les dernières minutes, mais je vois pas si... On encore au super rouge comme tantôt. D'accord. Les pannes électriques, ça commence tranquillement à baisser. Je parlais à la porte-parole d'Hydro-Québec tantôt, elle me disait que ça devrait être établi d'ici le souper. On a changé un peu le discours dans les dernières minutes parce qu'initialement, c'était plus des bris d'arbres qui avaient tombé sur les installations, mais là, il y a vraiment des poteaux qui ont cassé avec les rafales de vent. Capitale nationale, encore beaucoup de pannes. Chaudière-Appalaches, même chose. Et partout dans la province, c'est assez important. On surveille ça pour vous. Trafic de stupéfiants à Québec, il y a un réseau lié au Hells Angels qui est visé par une opération policière. C'est autant la Sûreté du Québec que le service de police de la ville de Québec qui sont là-dessus depuis le début de la journée. Il y a eu des arrestations et il y a également eu perquisitions. On attend toujours plus d'informations, mais c'est un bilan qui devrait être diffusé là, plus tard dans la journée ou encore dans les prochains jours. C'est vraiment un groupe qui agissait sous l'égide des Hells Angels en matière de trafic de stupéfiants. Agression sexuelle en position d'autorité, il y a un ancien député du Bloc qui a été arrêté à Québec, Bloc québécois, mais entre 2008 et 2011, c'est là où Pascal-Pierre Payet était député. C'est un enseignant de formation, il a 47 ans et on est allé chercher dans le secteur de Saint-Augustin-de-Desmaures ce matin. Chef d'accusation, agression sexuelle en position d'autorité, agression sexuelle aussi et contact sexuel. Quarantenaire qui devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec pour deux événements. En fait, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a un qui se serait passé en 2006 et un autre en 2024. Les travaux préparatoires du tramway, ben ça va perturber les déplacements dès samedi. On parle d'autobus où le trajet sera modifié, des ajouts de sens unique, des retraits de cases de stationnement, plein de changements comme ça. On peut en faire une liste, on va le faire plus tard, mais quand même, vous pouvez aller voir les sites du RTC et ceux de la ville pour avoir toute l'info. Trois mois d'enquête, l'UPAC n'est toujours pas en mesure d'établir l'authenticité des textos liés à l'affaire des Brownies ayant éclaboussé l'ex-chef libéral Pablo Rodriguez. Selon des sources, bien, les enquêteurs envisagent même que ces messages aient été fabriqués. Puis la presse, elle rapporte qu'on veut faire la lumière sur le dossier, mais ça se peut qu'on demande au Journal de Québec de révéler ces sources. Mais c'est une démarche que le média dit vouloir contester. Là, on veut protéger le travail journalistique.
On vient d'en discuter avec Antonine Iacarini dans le caucus qui est du lundi au jeudi de midi à midi 30. Ça se retrouve sur le blvd.fm et sur YouTube.
Oui, puis en terminant, bien, je vais en parler de ce qui se passe au Moyen-Orient Donald Trump a repris la parole dans la dernière heure. Au Détroit d'Ormuz, on veut que ça débloque. Mais on a demandé l'aide des alliés, puis ça n'a pas répondu présent. Donald Trump, maintenant, dit qu'il n'a jamais eu besoin de l'OTAN.
Il n'a pas besoin de personne, Donald.
Donald Trump a fait du Donald Trump. Et c'est quand même important à nommer, mais il y en a un qui l'a quitté. Hein? Dans les dernières minutes, on a appris qu'un de ses proches, un qui travaillait à la cellule antiterrorisme là, aux États-Unis, a décidé que c'était pas les États-Unis qui auraient dû entrer dans cette guerre-là, que l'Iran ne menaçait pas les États-Unis. Alors, il y a eu un fort malaise avec tout ça et il a décidé de démissionner. On en parle avec notre invité.
Oui, exactement. On reçoit Éric Sauvé, ex-haut-gradé des Forces armées canadiennes et président d'Innovigo. Éric, merci pour ta présence à l'émission d'En jase aujourd'hui.
Oui, merci à vous.
Éric, dis-moi donc, tu m'as envoyé une vidéo ce matin que j'ai regardée où on disait que l'Iran se prépare depuis 1980 à une attaque américaine et qu'ils étaient prêts justement à survivre. Et du côté du Pentagone, bon, ça serait mal préparé à cette résistance iranienne-là. Est-ce que j'ai bien compris?
Ben oui, le but de l'Iran dans cette guerre-là, c'est vraiment de survivre. Eux, ils ont survécu à leur première guerre. Dans le fond, la révolution a eu lieu en 79. Puis de 80 à 88, ils ont subi les assauts de l'Irak. Ça, on s'en rappelle pas très bien, mais ça fait des centaines de milliers de morts. Il y a eu des gaz chimiques. Fait que ça a été comme un traumatisme pour l'Iran qui s'est dit, il faut que je puisse survivre à des futures attaques comme ça. Puis en 2003, ben ça, on s'en rappelle plus, Saddam Hussein a été chassé d'Irak dans de quelques mois. Fait que l'Iran s'est positionné, a décentralisé son commandement pour éviter que ça lui arrive aussi un jour.
Donc là, les États-Unis sont embourbés. Le détroit d'Hormuz qui est fermé à l'heure actuelle. Les pétroliers ne peuvent pas passer. Et là, il y a plusieurs stratèges militaires qui disent que ça va prendre une intervention au sol. Est-ce que tu es de cet avis-là?
Bien, l'intervention au sol, c'est extrêmement risqué. Là, ce que ça prend, c'est vraiment de débloquer le détroit parce que on entend beaucoup parler, mais le détroit, c'est 20% du pétrole mondial. Moi, j'ai regardé les cartes satellites. Là. Il y a des navires pétroliers et des navires de cargaison de chaque côté du détroit. Il y en a justement un qui a été frappé hier. Fait qu'ils sont en position vulnérable. Il faut l'ouvrir. Là, pour l'ouvrir, là, c'est carrément une bulle qu'il faut défaire comme une couche d'oignon, dans le fond. Il faut aller frapper les lanceurs, il faut aller frapper les radars, il faut frapper les mines, les drones. C'est extrêmement complexe. Puis il n'y a pas un pays qui veut s'aventurer. Peu importe comment Donald Trump va les inviter puis va essayer de les soudoyer, là. Il n'y a pas un pays qui veut se mettre en danger parce que le détroit mesure 39 km de large. Puis les missiles arrivent très vite à cette distance-là. Fait que ça va prendre vraiment une opération importante pour essayer de débloquer tout ça.
Est-ce qu'on peut débloquer tout ça avec une opération typiquement aérienne comme les États-Unis font depuis le début du conflit?
C'est probablement ça qu'ils vont essayer parce que Donald Trump n'a pas préparé l'opinion publique à avoir des pertes énormes. Puis quand on parle de troupes au sol, bien on peut perdre beaucoup de monde. Fait que sûrement que le plan du commandement militaire, c'est de le débloquer par des frappes aériennes. Mais le meilleur moyen de le débloquer, si ils le font de façon intelligente, c'est de tenter de négocier avec l'Iran. Puis peut-être que la Chine ou d'autres pays importants pourraient se porter garant des négociations pour tenter de débloquer l'impasse. Il faut comprendre que c'est la dernière carte du régime iranien pour sa survie. Puis on savait que ça allait se passer. Et c'est quand même assez hallucinant d'apprendre que les Américains n'avaient pas de plan de contingence au cas où le détroit serait bloqué comme il l'est en ce moment.
Il y a beaucoup de questions. T'sais, Pékin pourrait entrer dans le jeu, comme vous dites, avec la Chine pour les négociations, etc. Mais j'ai lu hier que les États-Unis avait dit à l'Iran, vous pouvez passer, on va vous laisser passer avec vos paquebots, avec vos cargaisons. Est-ce que l'Iran a obtempéré parce qu'il y a quelques bateaux qui se seraient essayés, puis si jamais, ben, il ne croule pas sous les bombes des Américains ou d'Israël, ça pourrait pas ouvrir cette voie-là, puis qu'on ait un consensus?
Mais en fait, c'est vraiment l'Iran qui contrôle le flot des bateaux dans le secteur, c'est pas les États-Unis. Les Iraniens, ils ont une marine de gardien de la Révolution équipée de vedettes rapides. Ils ont des mines, mais c'est pas des mines style Deuxième Guerre mondiale qui flottent à la surface de l'eau. C'est des mines intelligentes qui peuvent lancer par roquette au fond de l'eau. Puis ces mines-là peuvent attendre puis déterminer quel navire ils vont frapper. Ils ont aussi des drones. Ils ont des missiles lancés de la côte à partir de pick-up qui se déplacent. Fait que c'est pas l'Amérique qui a le gros bout du bâton en ce moment. C'est vraiment l'Iran qui décide qu'est-ce qu'ils vont frapper, quand ils vont frapper, puis quel navire ils vont laisser passer. Fait que les alliés comme la Chine, les pétroliers peuvent passer. Mais il y a un risque, parce que le commandement est décentralisé, il y a un risque d'un mauvais calcul de l'Iran qui va frapper un navire, soit coréen ou soit japonais, ou peut-être même français ou britannique, qui a un risque énorme d'élargissement du conflit à partir de là.
Pour rappel, on parle avec Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et président d'Inovigo. Éric, vrai ou faux, Donald Trump n'a pas besoin de l'OTAN pour justement résoudre le conflit en Iran?
C'est certain que l'OTAN ne se mêlera pas de ça. Trump a les ressources, mais il veut pas envoyer ses propres navires parce qu'il sait que le risque de perte est élevé. Fait que la réponse, c'est ils ont les moyens, ils veulent pas le faire. Ils vont demander à des alliés. Puis là, alliés, c'est un bien grand mot parce que ces gens-là n'ont pas été consultés pour la guerre. Puis on leur dit, dans le fond, viens réparer les dégâts que j'ai faits. Fait que c'est probablement presque certain que l'OTAN va dire non. Là, il y a des pays comme la Corée du Sud ou le Japon qui dépendent beaucoup du pétrole et des biens, vont peut-être y aller, mais pas pour aider les Américains, vraiment juste pour s'arranger pour que leur bateau à eux passe.
En terminant, Éric, je me transporte juste à côté de l'Iran, à proximité avec le Liban. Est-ce qu'Israël jouerait un jeu dangereux d'envoyer des troupes au sol là-bas?
Bien, le Liban, c'est un État failli, qu'on dit, un État échoué, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de gouvernement central. Ça fait longtemps qu'Israël sait qu'il va y avoir une guerre avec le Hezbollah, qui est un allié de l'Iran. Là, c'est un gros problème. On parle de 800 000 personnes déplacées au Liban. Ça va devenir une catastrophe humanitaire. Puis Israël se retrouve à combattre sur deux fronts. Mais je pense que les buts d'Israël en Iran ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Je pense qu'Israël pourrait se retirer assez rapidement quand ils vont frapper les cibles de choix, puis ensuite de ça, se retourner, puis peut-être porter le coup de grâce au Hezbollah. Fait que c'est une autre situation qui se développe à regarder dans les prochains jours.
Oui, parce qu'Éric, il ne faudrait pas revivre une bande de Gaza, là, épisode numéro 2, avec une crise humanitaire aussi importante.
Oui, c'est ça. Le risque de crise humanitaire est assez important dans le secteur. On sait que les Israéliens ont pratiquement étouffé Gaza, une petite bande avec 2 millions de personnes pendant longtemps. Et il pourrait y avoir des problèmes assez importants aussi dans la région du Liban, puis peut-être même une évacuation des Canadiens aussi dans le secteur.
Éric Sauvé est vétéran, ex-haut-gradé des Forces armées canadiennes et président d'Inovigo. Merci beaucoup, Éric, pour tes éclaircissements aujourd'hui dans le dossier au Moyen-Orient. Et on se reparle prochainement.
Merci, à la prochaine.
Salut, Éric. Éric Sauvé, très intéressant comme conversation avec lui. On comprend, Pascal, qu'on a complètement sous-estimé du côté des Américains le désir de résistance de l'Iran, c'est ce qui nous amène dans ce bourbier-là.
Oui, absolument. Puis je suis allée relire ce que j'avais lu par rapport au paquebot iranien. Puis c'est vrai qu'ils prennent la chance un petit peu, puis ils vont, un peu tranquillement, là.
Ben oui.
Mais je me demande si c'est pas ça la solution. C'est au moins de débloquer le canal d'Hormuz, mais c'est le gros bout du bâton de l'Iran.
En effet.
C'est comme ça qu'ils réussissent à avoir le dessus sur Donald Trump.
Et à garder justement cette pression-là sur les alliés, je le mets en guillemets, des Américains, les alliés naturels qui disent « Hey, là, on se retire de là, on a besoin de cette ressource-là qui est le pétrole. » C'est vraiment de cette façon-là que ça se produit.
À Boulevard 102.1 jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
D'une guerre aux missiles, on passe à une guerre verbale, Pascal CV, parce que hier on recevait le maire Sylvain Junot en entrevue ici à Boulevard 102.1. Il voulait nous parler du projet de tramway, de cette séquence qu'il ne trouvait pas de bon goût par rapport à l'abattage d'arbres de 1500 arbres, dont une très grande majorité vont se retrouver sur le boulevard René-Lévesque. Et là, on se disait, Pascal, le maire Marchand va revenir de l'Alberta. Lundi prochain, il a promis à la gang du retour, Denis, Véro et Audrey, de venir faire son tour mensuel. Donc, on va reparler de ça là. Mais surprise, un document de 6 pages est arrivé dans nos courriels.
Oui, on a répondu, en fait, à ce que M. Junot disait sur nos ondes hier. C'est comme si on s'est dit, hey, lui a eu son droit de parole. Moi, j'étais à l'autre bout, là, j'étais à Ottawa. En ce moment, je veux mon droit de parole aussi.
Exactement. 3 points étaient mentionnés dans la lettre de M. Junot. Je l'ai mentionné, la séquence qui n'est pas la bonne pour la coupe d'arbres, le financement qui n'est pas assuré et le projet qui ne repose pas sur une gouvernance solide. Je vous invite, premièrement, on va écouter Sylvain Junot qui donne une petite explication au début sur la séquence, mais surtout dans cet extrait-là, sur le financement du tramway, qui est un problème pour lui.
Maintenant qu'on a dit ça, tout grand projet de cette envergure, on parle quand même de plusieurs milliards, doit suivre les règles de l'art. Dans les règles de l'art, Les gestes irréversibles, ben, on les pose pas au début, on les pose quand on est sûr d'avoir tout bien attaché. Et dans ce cas-ci, ben, le financement, à moins que quelqu'un me sorte des documents, là, j'ai pas d'assurance de grand-chose. On a une espèce d'esquisse, mais un montant de 7, quelques milliards qui date de, un estimé qui date d'il y a 2 ans, un gouvernement fédéral qui parlait de 1,4 milliard, qui représente donc pas 40%, pas d'engagement à aller plus haut, mais des espèces de peut-être que.
La réponse de Bruno Marchand, Pascal, était de dire « Hey, écoutez, moi, là, le financement, là, c'est faux ce que Sylvain Junod dit. Il est assuré. Le projet est porté par le gouvernement du Québec qui a confirmé qu'il en assumerait entièrement le financement. C'est lui qui assume le rôle de maître d'ouvrage et qui, à ce titre, détermine les objectifs du projet, l'échéancier et le budget. » Mais Pascal, moi, j'ai un problème avec la réponse de Bruno Marchand parce que, dans l'entente du tramway, le gouvernement peut se retirer jusqu'en 2027 pour le faire parce que, admettons que le tramway augmenterait de coût par rapport aux 7,6 milliards, ce qui risque d'arriver parce que ça va être une évaluation d'il y a 2 ans rendue en 2027. Puis si c'est CDPQ Infra là, qui finance, là, ça va faire comme pour le REM. C'est-à-dire qu'ils vont se refinancer avec des contrats d'exploitation. Qui va payer pour ça? Le RTC. Le RTC est endetté par-dessus la tête. Fait que je vois pas de solution enviable si le gouvernement fédéral n'investit pas le fameux 40%. Es-tu d'accord avec moi?
Oui et non. Oui et non, parce que je me dis, il s'est tellement engagé, là, Bruno Marchand, là, qu'il va trouver comment. Puis ouais. S'il faut endetter, il faut retaxer, puis j'ai l'impression qu'il va le faire. Fait que c'est là où, lui, il va de l'avant parce qu'il doit être convaincu qu'il va de l'avant. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on est dans les travaux, là, dès samedi.
En effet.
Il ne peut pas rebrousser chemin. Puis on était dans les travaux il y a ouais. quelques années même, là. Mm-hmm. On a commencé dans la base ville, puis tout ça.
Il va-tu trop vite, Bruno Marchand? C'est le seul qui va vite de même? Parce que je regarde CDPQ Infra, on attend justement printemps 2027 pour les nouveaux travaux. Je regarde le gouvernement du Québec, on est toujours sur le bout des lèvres à « Oui, le tramway va se faire, mais on dirait qu'on n'est jamais sur des assises solides. »
Mais encore Jean-François Simard, on peut le faire entendre.
Oui, on va
là,
le faire entendre
là,
certainement.
Le ministre de la Capitale-Nationale, puis il s'est un peu fait demander « On est-tu sûr là, que le tramway, ça va se faire? »
On attend ce financement. Moi, j'ai bon espoir, j'ai une assurance morale que ce financement arrivera. Moi, j'ai confiance que nous allons réunir toutes les conditions gagnantes, y compris les conditions financières, afin de mettre le projet du tramway sur les bonnes voies.
Assurance morale? Mais ça, ça me rassure pas, moi!
Moi, il me convainc pas, puis il a pas l'air convaincu. Mais tu sais, dans ce jeu-là, là, puis j'en parlais tantôt avec Mathias, notre collègue, lui, il lisait un peu entre les lignes, selon les conversations, qu'eux, ils vont comme ça parce que ils veulent quand même que le fédéral mette le 40% puis l'enveloppe sur la table. Mm-hmm. Puis si tu dis, ah non, on le fait pareil, peut-être que le fédéral, ça va venir à ses oreilles, ils vont dire, ben arrangez-vous.
Ben, c'est
vous n'avez pas besoin de mon enveloppe parce que je la mette ou pas, vous allez le faire. Fait qu'il faut peut-être garder l'argent dans ses poches.
En t'sais, effet.
C'est peut-être ce jeu-là en coulisses qu'on voit pas puis qu'on est en train de taper sur la tête à des M. Simard, à des M. Ah, Marchand. Ouais. Pis de... Mais tu prends tout ça, là. C'est quoi qui a un... C'est quoi le point commun?
Bien, c'est la séquence du projet qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est dans tout projet d'infrastructure qu'on fait. C'est que normalement, tu devrais lancer ton projet quand le financement est ficelé. Tu devrais dire, hey, regardez, tu aurais dû dire en 2024, ça coûte 7,6 milliards, parfait, paf, 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 les gouvernements financent, on est parti.
C'est ça le point commun, c'est que c'est pas ficelé.
Exactement.
Fait que même s'il y a les jeux de coulisses, puis on est sûr de le faire, puis que Bruno Marchand va de l'avant, mais que M. Simard essaie de le dire d'une autre ouais. manière pour pas que le fédéral entende, puis que si c'était ficelé.
En effet.
On n'aurait pas une multitude de problématiques comme en ce moment. Puis on ne taperait même pas sa tête à Bruno Marchand.
Ben non, on laisserait ça aller, puis on dirait c'est parfait, les élections ont eu lieu, puis on est parti avec ça, et on va avoir le tramway. Puis en passant, je suis pour là, un système de transport structurant.
Comme M. Junod.
Ben, je suis comme M. Junod. Je suis pour, mais c'est juste que je me disais, my God, là, on avance, puis on ne sait pas trop qui va payer, puis finalement, qu'est-ce qui va arriver. D'ailleurs, par texto, le ministre responsable de la Région de Québec dit avoir une assurance morale. On ne coupe pas d'arbre avec une assurance morale seulement. C'est un bon point. Je pense que c'est ce qui inquiète Sylvain Junod là-dessus, sans l'ombre d'un doute. Je termine avec la gouvernance du projet. Voici ce que Sylvain Junod avait à dire.
Puis c'est un projet dont la gouvernance est fractionnée. Hein? On a la CPDQ Infra, on a le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, l'agglomération. Fait que...
En effet, il y a énormément de joueurs dans le projet à l'heure actuelle. Normalement, le maître d'œuvre, c'est la CDPQ Infra. La Ville de Québec est partenaire. Le gouvernement du Québec aussi. Et c'est exactement ce que Bruno Marchand explique dans sa réponse écrite. De plus, Bruno Marchand ajoute « La Ville a, depuis 2018, un bureau de projet qui planifie la réalisation du projet. » La trouve moins bonne, cette réponse-là, parce que si le bureau de projet avait été bon, ce ne serait pas CDPQ Infra qui ferait le job.
Oui, puis écoute, Jeff, moi, ça me ramène au tout début, là, quand le bureau de projet avait été créé, il n'y avait personne qui était là. C'était des locaux vides. Oui. Moi, j'étais allé cogner, là, puis en tout cas, on avait fait toute une épopée avec ça.
Autant le tramway que le troisième lien, il n'y avait pas personne dans le bureau de projet.
Puis là, tu te dis, OK, on est-tu en train de nous remplir depuis tellement longtemps juste pour nous faire manger ce projet-là comme on l'a mangé aux dernières élections municipales parce qu'on se disait de toute manière, écoute, qu'on vote ou pas Bruno Marchand, le projet va se faire, on est rendu trop loin là-dedans. Fait qu'on peut même plus utiliser ça comme étant un enjeu de campagne électorale. Tu sais, ça faisait même plus partie des meubles.
Exactement.
Fallait l'avaler, le projet.
Oui, t'as entièrement raison. Et là, malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore des ficelles qui ne sont pas bien attachées. Ne serait-ce que la présence de Bruno Marchand en Alberta aujourd'hui, à quelques jours du début des travaux, où on va aller s'inspirer des meilleures pratiques.
Ça paraît très mal. Ça paraît très, 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 très mal. Puis même, on ne se l'est pas fait expliquer. Puis au pire, on est ici cette semaine, puis il n'y a rien qui presse. Si ce n'était pas fait, là, dans un mois, ça peut être fait. Ou sinon, ça aurait dû être fait bien avant.
Ben
c'est
oui.
ça qui ajoute l'insulte à l'injure. Puis pour M. Junot, je ne sais pas s'il y a toutes les informations en tant que maire de Saint-Augustin sur le projet. Il s'ingère un peu des affaires de Québec. Il se mêle pas de toutes ses affaires.
Même s'il dit « je fais pas la guerre à Bruno Marchand », la guerre est lancée avec la taxe à l'agglomération qui a passé avec Québec et Ancienne Lorette quand Saint-Augustin voulait pas de la révision qui avait été faite. Ça, c'est clair.
Tu sais, ça se peut là, qu'il fasse plus suer bien du monde que d'autres choses en ce moment puis qu'il devrait rester dans Saint-Aug puis continuer de travailler pour Saint-Augustin. Mais peut-être que ça démontre que même des homologues qui sont très près de Bruno Marchand en termes de territoire puis même de gouvernance, sont pas au courant de ce qui se passe,
ben,
puis devraient l'être.
Sylvain Junot devrait être au courant de ce qui se passe parce que le tramway va atterrir à Saint-Augustin. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus dans mon esprit. Puis du côté de la coupe d'arbre, bien Bruno Marchand écrit que c'est d'une démonstration d'ignorance. Aucune coupe n'est faite avant quoi que ce soit nécessaire. C'est justement l'inquiétude de Sylvain Junot. Juste répondre à Bruno Marchand qui a quand même confirmé le 15 février dernier qu'il y avait 20% des arbres sur René Lévesque qui allaient être coupés ce printemps. Fait que il y en a de la coupe d'arbre qui va se faire.
C'est quand même clair, là.
C'est quand même clair. C'est lui qui l'a dit, l'a confirmé au journaliste. En point de presse, je suis allé revérifier. C'est vraiment ça qu'il l'a dit. Alors, Sylvain Junot part pas d'une...
Vérification des faits.
Ben, Sylvain Junot part pas d'une folie, là, d'une phobie, de dire « Ah, mon Dieu, on va couper plein d'arbres. » On coupera pas les 1500, mais on a prévu en couper 20%, ce qui est quand même un nombre assez appréciable. Vous penchez de quel côté? Du côté de Bruno Marchand et sa réponse de 6 pages ou du côté de Sylvain Junot avec l'entrevue qu'il nous a accordée hier sur Boulevard 102.1? D'ailleurs, c'est disponible au blvd.fm. Écrivez-nous au 418-971-1021.
Est-ce qu'il va répliquer maintenant? La balle est un peu dans son camp.
Ouais, j'ai hâte de voir. D'après moi, non. D'après moi, lui, là, il a eu ce qu'il voulait. La réaction de Bruno Marchand. Puis maintenant, les gens dans la...
Exactement.
Puis là, maintenant, les gens dans la sphère publique vont prendre position. Puis il sait que les gens vont prendre position à sa faveur.
D'accord.
T'as l'air à penser différemment?
Mais c'est parce que je trouve que Bruno Marchand, il pique.
Oui.
Il me ferait avoir, je pense, en tant qu'homologue.
C'est clair.
Je resterais très diplomate. Mais je me ferais avoir, je répondrais.
Ouais, moi, je pense qu'il répondra pas. Je pense que ça faisait partie de sa stratégie de pff, allumer le feu un peu puis dire « Parfait, M. Marchand va se planter avec ceci. » Ah, on parlait de plantation d'arbres. C'est un beau jeu de mots, hein?
On parlait plus des arrachés.
Ouais, des arrachés, t'as raison. Après la pause, on parle avec Rémi Villemur et sa chronique bi-hebdomadaire les mardis et jeudis. On va revenir sur le cas de Don Cherry parce qu'imagine-toi donc que le Parti conservateur continue, toi. On fonce! On va chercher des signatures pour la candidature de Don Cherry à l'Ordre du Canada. Et Rémi veut aussi nous parler de notre système de justice qui ne fait pas d'allure. Une personne à Montréal qui est accusée de 2 agressions sexuelles. Bon, on lui a dit hey, « c'est pas grave, en attendant les procédures, tu peux retourner en liberté. » 2 agressions sexuelles qui se sont produites dans les derniers mois. Circulation, Pascal?
Oui, je me permets de rappeler qu'il y a un feu de circulation qui a été arraché du sol à l'angle du boulevard Guillaume-Couture et Saint-Omer. Ça s'est fait un peu avant midi. Personne de blessé. Le poteau est tombé. Ça n'a pas endommagé de véhicule au passage, mais il y a quand même un détour pour la circulation dans le secteur. Et c'est une entrave majeure, disons-le. Là. Il y a des équipes spécialisées qui sont en chemin aussi pour évaluer la situation. On va devoir procéder à des travaux assez importants. Et ça, c'est dû au vent. Alors, rappelons aussi qu'il y a eu un poids lourd qui s'est renversé sur le pont Pierre-Laporte. Personne n'a été blessé. On a remis le poids lourd sur ses roues. Il a pu continuer à évacuer ses occupations comme le reste des gens qui étaient là, mais ça a ralenti le secteur.
Par texto, on nous mentionne qu'il y aurait une manifestation qui se prépare le 28 mars, justement, pour protéger les arbres sur René Lévesque en attendant que le financement soit ficelé pour le projet de tramway. On va se tenir au courant de ceci. On vous en parlera sur les ondes de Boulevard 102.1. Rémi Villemur suit dans un instant à Boulevard 102.1, l'émission On en jase.
Ouais, c'est pas mal cool, le patron lapin. Allez-y, je l'ai cherché.
Mais hein.
Puis avec un chocolat, qu'est-ce qui se prend bien?
Un café.
Moi, c'est ma routine matinale. Un carré de chocolat noir, un café, hein? Tu startes ta journée. Et c'est le bonheur. Mais pour avoir le meilleur café, ben il faut que tu aies trouvé la meilleure place.
Exactement.
Pour t'en procurer. Et c'est du côté de Sobab sur la 3e avenue à Limoilou. C'est un super quartier pour aller prendre une belle petite marche. Là, le printemps est à nos portes. Si vous êtes amateur de bon café, en attendant que le printemps arrive puis que vous alliez marcher dans le coin de Limoilou pour aller chez Café Sobab, rendez-vous là-bas pour avoir le meilleur grain en ville dans ta machine. Ça fait toute la différence sur ton réveil. Une bonne machine, un bon café chez Sobab, on te fait goûter à différentes torréfactions. Puis encore là, ça se peut que tu décides de faire autre chose dans ta vie, soit te rendre super heureux avec une nouvelle machine. On en vend là-bas. On a des conseils personnalisés aussi. On a des formations qui sont incluses et on déguste toujours un bon breuvage. Offre-toi la crème de la crème sur les machines espresso manuelles ou encore celle automatique Jura, par exemple. Tu vas pouvoir apprendre à la manier et changer toute ta routine. C'est difficile avec les enfants, ça va rester difficile le matin, même si c'est la plus grande merveille du monde. Mais offre-toi un petit remontant. Chez Sobab, tu fais un déplacement qui est payant sur la 3e avenue. Et encore là, suis le Facebook et Instagram de l'entreprise ou cafésobab.com. Puis petit clin d'œil, ils ont parlé au propriétaire. Qui ça? Bien, la gang de Boulevard, surtout Joanie Fortin dans le podcast Entrepreneur qui est passé lundi dernier. Donc, vous allez pouvoir le reprendre sur la page de blvd.fm, puis tu vas découvrir cette page-là, cette entreprise-là familiale exceptionnelle.
Jusqu'au 31 mars,
je crois.
Si vous avez un doute, il y a quelqu'un pour vous écouter. Contactez la ligne Aide maltraitance adulte aînée au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec.
Le rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier revient en force pour sa 27e édition. Trois rodéos, mini-rodéos, derby d'attelage, tir de chevaux, spectacles musicaux gratuits et plusieurs nouveautés. Procurez-vous vos billets en ligne sur lepointdevente.com. Devenez super bénévole au rodéo-scjc.com.
Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. L'équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance, de travailleurs sociaux et plus pour veiller au bien-être des résidents. En collaboration avec des employés du réseau de la santé et des services sociaux, Hébergement Rive-Nord participe à l'amélioration de la qualité de vie de sa clientèle avec professionnalisme et bienveillance. Pour plus de détails, visitez hébergementrivenord.com.
Désamiantage, agrandissement d'usines, réfection, trottoir, soutènement de béton, démolition. Pour vos projets commerciaux et industriels, la meilleure idée que vous pouvez avoir, c'est de faire confiance à Construction Finition, entrepreneur général et spécialisé. ConstructionFinition.com.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Auto Collection. En mars, profitez de jusqu'à 10 000 $ de rabais sur le F-150 2026 et obtenez le Ranger à 140 $ par semaine en location 60 mois avec léger raconte de 2 000 $. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Auto Collection.
Boulevard.
Boulevard.
De t'y informer.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce.
On en jase.
On en jase. Ton émission du midi. Exactement 13h15. Je vous rappelle qu'à la météo, les vents devraient se calmer, mais il peut y avoir de la poudrerie à certains endroits présentement. Soyez prudents sur les routes. Demain, c'est -5, généralement ensoleillé. 0 degré avec possibilité d'averse de neige pour jeudi et 2 degrés avec des possibilités d'averse de pluie pour vendredi. Par texto, vous êtes pro-Sylvain Junot dans cette guerre de mots sur le tramway avec le maire Bruno Marchand. Même que j'adore le texto de Stéphane qui dit « On entend plusieurs groupes différents, que ce soit les commerçants, la population ou d'autres villes, que beaucoup d'informations sont manquantes pour les travaux, coûts du projet du tramway. Clairement que des problèmes de communication sont notables, mais quand un maire dit quelque chose qui ne fait pas son affaire, le maire répond avec un document de 6 pages, quand même particulier comme attitude. En effet, je communique pas avec mes commerçants, mais hé, crème que je vais répliquer avec mon document de 6 pages à Sylvain Junot. Je l'aimais, ce texto-là.
Mais il est de même, Bruno Marchand, ah, il est comme ça. Il
quand
est réactif.
Paf!
Puis tu n'as pas besoin de le piquer avec une fourchette. Là. Tu peux vraiment
non.
piquer avec un manche à balai. Puis ça a fait la même affaire que si tu avais un petit canif dans la main.
En plein ça.
Il réagit tout le temps. Puis c'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup de défis. Puis qui met quand même énormément de sa prestance politique sur la table.
Vraiment. Il veut que ça soit son legs. Le legs de Jean-Paul Lallier avait été la revitalisation de Saint-Roch. Le legs de Régis Labeaume, le centre Vidéotron.
Oh, il aurait aimé ça, ça soit tramway aussi. Mais
et Bruno Marchand veut le tramway comme legs politique. C'est tout simplement ça. On s'en va rejoindre. Animateur au 99.5 Montréal, Rémi Villemur, qui est avec nous les mardis et jeudis aux alentours de 13h. Rémi, comment vas-tu?
Il vante. C'est comme ça qu'il va.
Hein? Nous autres aussi, il vante. Oui. Comme je te disais, hors d'onde, un camion s'est renversé sur le pont Pierre-Laporte. Il y a eu de la congestion, mais le vent devrait se calmer, comme je viens de l'annoncer à la météo. Rémi, pas le choix de revenir sur le dossier Don Cherry, parce que le Parti conservateur qui a sorti ses pompons de cheerleader la semaine dernière en scandant Don Cherry haut et fort, une petite stépette, continue à récolter des signatures contre vents et marées pour que Don Cherry soit reconnu à l'Ordre du Canada. Je te fais entendre, avant qu'on discute, Gabriel Sainte-Marie, un député du Bloc québécois, qui a justement parlé de Don Cherry et de ce qu'il représente pour le Québécois francophone.
En matière d'ignorance profonde des Québécois et des francophones, les conservateurs proposent aujourd'hui la cerise sur le sundae. Ils ont mis en nomination Don Cherry pour l'Ordre du Canada. S'ils avaient mis en nomination ses vestons, ça aurait peut-être passé. Mais l'homme, lui, s'est surtout démarqué toute sa vie pour ses propos francophobes. Il a méprisé toute sa vie les athlètes québécois et francophones au hockey comme dans d'autres sports. Il a méprisé le Québec et sa volonté de protéger le français et la en français, mais c'est surtout, il a aussi milité contre les femmes dans le journalisme sportif. Il en a rajouté une couche contre les Autochtones en inférant qu'ils seraient des sauvages et des barbares. Il a aussi pris pour cible les immigrants, ce qui lui a valu d'être congédié de la soirée du hockey canadien-anglaise. Monsieur le Président, le Canada choisira bien d'honorer qui il veut, mais parions qu'il est capable de trouver quelqu'un qui n'a pas insulté à peu près tout le monde qui n'est pas un homme blanc canadien-anglais.
Qui n'est pas un homme blanc canadien anglais. Rémi, on n'est clairement pas séparé du Canada parce qu'il n'y a pas eu de référendum gagnant, mais sur les qualificatifs à propos de Don Cherry, on est deux nations pas à peu près.
Oui, puis c'était pas prévu que je commente la réaction du Bloc, mais je vais bien le faire si vous le voulez, là, parce que je comprends pas le gain politique possible pour le Bloc dans cette histoire-là. Si on écoute le député qu'on vient d'entendre, l'objectif du Bloc, c'est de faire annuler la nomination de Don Cherry. Sauf que si vous faites annuler une nomination pareille, qu'est-ce que vous prouvez exactement comme parti indépendantiste? Vous prouvez que vous pouvez réformer le Canada. Vous prouvez que vous pouvez être entendu à l'intérieur du Canada. Ça, le Bloc, il faut qu'il s'enlève ça de la tête. C'est pas payant, puis c'est surtout pas cohérent politiquement. Quand vous êtes indépendantiste, votre preuve, c'est pas votre démarche, ça devrait pas être de prouver que le pays fonctionne, même si vous voulez en sortir. Maintenant, je pense que tu as mis le doigt sur le sujet, Jeff. C'est le vrai sujet dans toute cette histoire-là, c'est la différence entre le Québec et le Canada. Il y a des gens qui ont dit Don Cherry, c'est un peu comme Pierre Falardeau au Québec, c'est-à-dire une grande gueule. Quelqu'un, tu sais, de patriote, d'un peu coloré, exubérant. Est-ce que vous imagineriez les Canadiens anglais être fan de Pierre Falardeau, qui, encore aujourd'hui, ici, fédère une bonne partie des Québécois, pas juste des Québécois, beaucoup de gens, pas juste des nationalistes, je veux dire, beaucoup juste des Québécois en général qui ont aimé le personnage, qui ont aimé Pierre Falardeau. Ben non, vous ne pourriez pas imaginer ça, parce que l'œuvre de Pierre Falardeau était fondée sur l'idée qu'il y avait un ennemi de l'autre côté de la frontière, et pas au sud, mais vers l'ouest. La même chose avec Don Cherry. Don Cherry n'aimait pas les Canadiens français. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. Je veux dire, moi, de me faire dire que je suis pissou parce que je ne porte pas de visière ou de me faire massacrer mon nom de famille, pas le fun, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Mm-hmm. Je ne suis pas une carpette pour autant. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Là. Il faut fouiller là, pour trouver des affaires pires que ça qu'il a dit au sujet des Québécois. Mais quand même, les Canadiens anglais aiment cet homme-là. Et le fait qu'il l'aime, alors que lui ne nous aimait pas, c'est bien la preuve qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes héros. Hein? J'ai posé la question à des gens autour de moi. Nommez-moi un héros canadien qui est aussi un héros québécois. C'est dur, là. C'est vraiment dur, là. Vous allez trouver des gens qui ont gagné, mettons, une élection puis que les Québécois ont appuyé, mais un héros. Je vous parle de quelqu'un dont on s'ennuie. Je vous lance la question.
Sidney Crosby est un héros national.
Ouais, mais c'est bon, OK. Sidney Crosby, c'est pas un, au Québec, c'est pas non plus un héros québécois, Sidney Crosby. C'est un joueur de hockey canadien. Qui se
mais là, il a joué pour l'Océanique de Rimouski. Il parle français, Rémi. Là.
Ouais.
Mais bon, faut que ça soit un Canadien qui est aussi apprécié au Québec, pas l'inverse, hein?
Ça pourrait être l'inverse également, effectivement. Tu vas me parler de Céline Dion?
Léo Major.
Ouais, Céline Dion.
Moi, c'est Léo Major qui me donne
oui,
en tête.
Bon point.
Écoute, Léo Major, là, je me demande s'il est si connu que ça au Canada anglais. Est-ce que, parce qu'au Québec, on le connaît, là, si on dit Léo Major, les gens vont dire c'est pas un soldat de la Première Guerre mondiale, mais si vous allez sur la rue principale à Toronto puis que vous demandez, prenez quelqu'un au hasard, vous dites « Who is Léo Major? » Pas trop sûr qu'on va vous dire.
Ben, ils sont bien ordinaires parce qu'aux Pays-Bas, ils le connaissent pas à peu près. Ils le célèbrent
Oui, effectivement. Mais... Non, mais un héros, quelqu'un, pas quelqu'un de connu, là. Je parle de quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque. Là, j'ai l'air de ménager la question.
Non, non, mais je comprends, non, mais je comprends ton point, t'es dans le sens que moi, j'ai juste des sportifs, des médaillés olympiques. Exemple, Joanie Rochette ici, avec sa mère qui est décédée en plein Jeux olympiques, qui a gagné une médaille de bronze puis qui a fait rayonner le Canada. Mais tu sais, si je me penche plus, parce qu'on parle un petit peu plus le côté politique, j'ai beaucoup de difficultés. Je me disais, le Canada anglais aimait Pierre-Éliott Trudeau, nous autres, on le détestait au Québec.
Bon, t'as des gens qui disent Mario Lemieux, Terry Fox, il y en a qui disent Georges Saint-Pierre, c'est encore un peu dans...
Ouais, Terry Fox,
ben,
c'est bon.
Ouais, ben, écoutez, Mario Lemieux, Terry Fox au Québec, vraiment, là, comme on capote sur Terry Fox au Québec.
Mais on a de la misère, le constat, c'est que c'est vrai qu'on a de la misère.
Ben, ça vient pas tout de suite. Puis on aura remarqué que ce sont des sportifs puis ou des artistes, mais pas de grandes personnalités intellectuelles, pas un penseur, pas un politicien. Pourquoi? Parce qu'au plan des idées et de la culture on est, historique, on est différent. On n'a pas la même perception de ce que ça a été que ce pays-là. Pour les Canadiens anglais, c'est une histoire heureuse. Et pour nous, ben, ça part de... Regardez, le discours de Mark Carney sur les plaines, là, c'était quand même un bon rappel aussi de ça, qu'on n'a pas exactement... En tout cas, on ne démarre pas l'histoire... au même endroit.
Alors, puis moi, ça me fâche assez parce que même dans la rue à côté, il y en a plein qui savent pas c'est qui Serge Bouchard. Puis pour moi, c'est une insulte. Hein? Fait que lui, on devrait le connaître.
Oui, je suis
une grande
fan de Serge Bouchard, Pascal. Non, oui, mais tu sais, pour moi, c'est ça l'affaire Don Cherry. Les Canadiens anglais ont le droit de se célébrer, je pense. Que, puis d'ailleurs, il le dit, le député qu'on a entendu à la toute fin, mais il renchérit quand même en disant qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Mais alors, c'était quoi l'objectif du Bloc? C'est de faire annuler ça? Mauvaise direction pour ce parti-là, je pense, à ce moment-là.
Il y a un bon nom qui vient de sortir par texto, Brian Mulroney.
Oh, OK. Écoutez, moi, j'ai de l'orgueil dans la vie, mais j'en ai pas suffisamment pour en l'exprimer à la radio. Je pense que Brian Mulroney, c'est un bon exemple, effectivement.
En effet.
Après, Brian Mulroney, vers la fin de son règne, les Québécois étaient plus trop fans. Là.
Non, avec...
Également. Mais il y a eu un moment, effectivement, mais Pierre-Éliott Trudeau à ce compte-ci aussi. Hein, il y a eu la Trudeau-manie au Québec. Sauf que Pierre-Éliott Trudeau, vers la fin...
Ouais.
C'est les bleus poudres qui l'écœuraient.
Oui, c'est ça. Puis Justin Trudeau, ça n'a pas bien terminé non plus. Ah, Charles-Étienne qui nous écrit Marc Garneau, en effet, comme astronaute. C'est un bon point. Rémi, deuxième sujet avec toi. On en parle régulièrement, mais je pense toujours qu'il faut continuer à en parler parce que ça n'a pas de sens quand ça arrive. Un exemple frappant que notre système de justice, on ne se le cachera pas, est pourri. Abdella Almir, 22 ans, arrêté le 25 février dernier, qui est remis en liberté malgré qu'il soit accusé de 2 agressions sexuelles et que la police cherche d'autres victimes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juge qui dit qu'il n'est pas un danger pour la société?
Deux fois. Deux fois, là, juste pour que ça soit très clair, là, cet homme-là de 22 ans a été arrêté pour avoir commis des actes, pour avoir agressé sexuellement des personnes. On l'a mis on l'a incarcéré, on l'a dit après, bon, ben, va-t'en en liberté en attente de ton procès. Il a recommis une agression sexuelle, on l'a réincarcéré, puis on a dit, retourne en... C'est ridicule. Deux fois. Et là, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir le SPVM sur les réseaux sociaux dire, là, en passant, cet homme-là est en liberté, mais on bâtit un dossier en vue de ces deux procès. Fait que si jamais vous avez été victime ou témoin d'un des agissements douteux de cet homme-là, là, tu te dis, mais attends une minute. Moi, je veux bien collaborer avec la police. OK, s'il a, par exemple, violé des filles, je connais ma petite... Mais il ne faut pas qu'il soit en prison s'il est si dangereux que ça. Il ne faut pas qu'il soit en liberté, il faut qu'il soit en prison. Des fois, il faut utiliser les exemples concrets, parce que sinon, ça reste exagérément théorique que de critiquer le système de justice. En voici un où on a trop l'habitude de regarder les droits de la personne. OK, cette personne-là, elle a le droit de ci, elle a le droit... Mais les victimes là-dedans, moi, qu'est-ce qui me garantit que cette personne-là, en ce moment, qui a des conditions, les respecte? La première fois, elle en avait, puis elle ne les a pas respectées. Est-ce qu'elle a un bracelet électronique? Est-ce qu'elle est forcée de rester à la maison? Y a-t-il quelqu'un qui surveille la porte? Qu'est-ce qui va se passer la troisième fois quand il va recommettre cette affaire-là? Il y a 22 ans, puis il n'a pas l'air de comprendre la patente. C'est complètement odieux, là.
En effet, puis j'ai une double question pour toi. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'enfin on soit plus répressif envers nos criminels? T'sais, ça va-tu prendre que ce gars-là, demain matin, va aller violer une femme puis il va l'assassiner en même temps qu'elle viole?
Bien, regardez, la semaine passée, on a un tueur qui a tué dans un dépanneur devant la station Laurier à Montréal.
C'est vrai.
Donc lui, si tu m'avais demandé, Jeff, après son premier meurtre, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on... Ben, un meurtre. Puis là, si la deuxième fois, là, s'il subit son procès, puis que le juge dit « Ouais, mais là, tu sais, lui, il a vécu un traumatisme, etc. » La vraie solution, là, OK, je veux pas sortir le gros marteau, là, mais la vraie solution, c'est peut-être d'accepter qu'on s'est menti à nous-mêmes, en pensant que le Canada pouvait réinventer la justice, pouvait réinventer notre rapport à la pénitence, puis à notre façon aux conditions de détention. On s'est menti. Là, on a l'air d'une gang de niaiseux à l'échelle internationale, parce qu'on met en liberté des violeurs, puis on se dit féministe, puis on met dans la rue des violeurs comme ça. Mm-hmm. Puis là, on dit, ouais, mais il vient d'un tel milieu de vie, puis il y a eu ce tough, puis tu sais, il faudrait pas non plus l'ostraciser.
Ouais, et la circonstance atténuante à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance. Ouf. Ben non, va parler de ça à la victime, là.
Ben oui, mais à qui on pense? Moi, personnellement, je sais pas si vous êtes d'accord.
On pense à l'accusé, on pense pas pantoute à la victime quand on fait ça.
Moi, je serais à l'aise qu'on décide de mettre la victime en priorité. Tellement. On fait tout ça au Québec et au Canada, on fait tout ça. La victime, on la met en priorité. Puis après, on pense à l'agresseur.
Pascal,
après,
t'en penses quoi? T'es comme nous autres?
Pas du tout. Même on a un gros problème. Ça regroupe tellement de choses. Ce matin, on jasait d'une agression dans un pénitencier. T'as quatre agents carcéraux qui ont été battus par un détenu avec un haut placé aussi. Puis là, on est en train de se dire, ouais, mais les droits de la personne dans la prison, faut qu'ils soient plus respectés. Puis quand on est rendu à même plus y avoir de hiérarchie ou de faire peur avec les agents correctionnels en prison, faut se poser des questions aussi sur où s'arrêtent les droits de ces détenus-là.
Ben oui, parce que plus tu rends la vie facile aux détenus, plus ils en profitent et moins tu as ensuite de gens qui veulent travailler dans les prisons parce que c'est de plus en plus difficile. Moins tu as de gens qui travaillent dans les prisons, plus les conditions de détention sont difficiles. Moi, j'ai travaillé dans une prison, je donnais des cours de poésie à des détenus, d'accord?
Okay.
À tous les jeudis. Et on allait les chercher dans leur cellule à 19h, on les amenait en classe, ils restaient avec moi 1h30. Un beau jour, on m'appelle, on me dit « Rémi, l'activité ne pourra plus se tenir ». Je dis « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu fait une niaiserie? » Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus de gardien le soir. Donc, il n'y a pas un gardien qui peut aller les chercher et les accompagner jusqu'à la salle. Et là, donc, on entend des gens défendre les droits des détenus en disant « Ben, ça n'a pas d'allure, ils n'ont plus d'activité ». Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi il n'y a plus d'activité? C'est parce que c'est l'enfer travailler dans une prison.
Exactement.
Les gardiens ne veulent pas travailler là. C'est la poule ou l'œuf? Ben, en tout cas, il faut être au moins avoir le courage de regarder les deux options.
Ben oui, puis en plus, ça va avec le recrutement, parce que là,
oui.
Pas de main-d'œuvre, mais ouais. Le recrutement, donc, on enlève un peu des qualifications qu'on mettait avant, que ce soit sur la prestance d'une personne, la carrure, le ci, le ça, et l'entraînement de cette dite personne. Fait que peut-être qu'on arrive avec des agents correctionnels qui n'ont pas toutes les qualifications pour y être. Fait que là, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, tu dis très bien.
Ouais.
Rémi Villemur, merci infiniment de nous faire réfléchir de cette façon-là. Il faut vraiment rehausser les conséquences dans notre système de justice. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. On se parle jeudi.
Oui, puis la police a été claire, là, ouvrez l'œil, là. Ils peuvent pas faire leur travail, fait que c'est à nous autres de le faire.
Oui, exactement. Les citoyens policiers, mes amis, wow! Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on parlait avec le registre, justement, public des délinquants sexuels hier. Après la pause, vous avez le goût de prendre un petit prêt-à-boire. Ton prêt-à-boire préféré, Pascal CV, c'est quoi?
Ah, tout ce qui est pas sucré.
Tout ce qui est pas sucré, parfait. Puis là, maintenant, faut que tu ailles à sac. Puis là, c'est compliqué. Puis là, il y a une file d'attente. Puis là,
du série des Appalaches, je trouve, en fait, des vraiment très
vraiment. Bon. Je suis très d'accord avec toi, on en a régulièrement à la maison. Mais Mathias Turcotte va venir nous expliquer ce que Samuel Poulain a dit en conférence de presse aujourd'hui sur son projet de loi pour réformer la vente d'alcool au Québec. J'ai soif juste à en parler.
T'as pas le droit en studio.
Non, dans un instant, à vous le voir sans doute, l'émission d'en jase.
Je préviens, on jase.
C'est nous ça, l'émission L'Angeage. Jeff Fortin, Pascal CV. Il est présentement 13h36. Les meilleurs moments se retrouvent sur le blvd.fm. Télécharge notre application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store ou encore mieux, viens nous voir sur twitch.tv. /BLVD, /FM. Tu veux nous parler par texto 418-971-1021? Tu veux nous parler de vive voix 418-780-1021? Quand on parle de gros dossiers qui passionnent les gens, on parle évidemment d'alcool! Et c'est ce que Mathias Turcotte va venir nous présenter. Êtes-vous à veille d'aller dans un dépanneur? Allez vous chercher votre prêt-à-boire! Puis le boire tout de suite en arrivant à la maison au lieu d'aller faire la file à la sac ou d'essayer d'en trouver une ouverte. À 6h le soir, un samedi soir, quand il me prend le goût d'un gin tonic! Vous allez savoir ça avec Mathias Turcotte dans quelques instants. Mais avant, Pascal, il faut rappeler des problématiques à la circulation, des pannes de courant, parce que les vents ont causé du problème.
Ben oui, dommage causé par le vent. Ben, il y a une entrave majeure à Lévis. Ça fait déjà quelques heures qu'on en parle, mais en plus des pannes d'électricité, hein, on est autour de 200 000 encore au Québec. Capitale-Nationale, 17 000. Chaudière-Appalaches, 14 000. Et ça devrait être rétabli, on espère, le plus vite possible. Mais il y en a qui... où ça a fessé plus fort, là, Montréal, Montérégie et tout ça, ça risque d'être à demain où on va pouvoir avoir à nouveau de l'électricité. Mais ça a mené à des bris de matériel, dont un poteau. Et c'est ça qui est arrivé à Lévis. Donc, feu de circulation qui a été arraché au sol à l'angle du boulevard Guillaume-Couture et Saint-Omer. Ça, c'est un peu avant midi. Personne n'a été blessé. C'est la bonne chose, mais ça a vraiment endommagé le secteur là, au niveau de l'électricité et tout ça. Donc, gros détour à faire. Tout est indiqué par là, mais ça ralentit aussi le secteur, il faut le dire. Et un autre endroit où c'est congestionné, c'est Henri-IV-Sud, congestion entre le boulevard Hochelaga et le pont Pierre-Laporte. C'est toujours très difficile depuis qu'il y a un camion qui a été un peu désarçonné, si on veut. Là. Ouais. Il a été emporté par le vent. Bon, il n'est pas tombé à 100 %. Il n'est pas tombé dans l'eau non plus. Il y a des gens qui nous écrivaient, mais ça a causé beaucoup de retard puis beaucoup de congestion. Sinon, enquête de l'UPAC sur le Parti libéral du Québec. Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est prononcé. Il veut des conclusions avant l'élection. On est inquiet de manœuvres qui ont pu saboter les enquêtes sur le Parti libéral du Québec. Et là, le chef du Parti québécois réclame que le directeur général des élections et l'UPAC dévoient les conclusions de leur investigation avant le déclenchement de la prochaine élection. Finalement, on va avoir l'heure juste avant d'aller voter. C'est un peu ça. C'est sûr qu'eux, ça les avantage, mais en même temps, ils veulent que tout soit limpide, tout soit clair. Et je vous rappelle que selon les informations publiées aujourd'hui par la presse, l'UPAC n'aurait pas été en mesure jusqu'ici d'authentifier les textos concernant les brownies au PLQ. Et c'est ça qui avait éclaboussé l'ancien chef Pablo Rodriguez.
Mathias, rassure-moi. Samedi passé, j'étais chez nous. Oh, je vais ouvrir ton micro, Mathias, désolé. Yes. Et là, je regarde ma blonde, puis j'ai... Il est 8h30 le soir, mais j'aurais le goût d'un petit prêt-à-boire de la distillerie des Appalaches. Je regarde, il n'y a plus de sac d'ouverte dans le coin chez nous. Je vais sûr pouvoir aller au dépanneur bientôt.
Ben oui, ça a été annoncé il y a de ça quelques semaines, puis ça va faire partie du projet de loi numéro 11 du ministre dédié à l'économie et au PME, Samuel Poulain. Aujourd'hui, on est allé une coche supplémentaire, parce que là, les prêts à boire vont être éventuellement, on n'a pas de date encore,
disponibles
en épicerie. Ben on ne sait pas.
Le gouvernement, c'est toujours long.
On ne sait pas encore, ça va être quand le projet de loi numéro 11 va
c'est
être mis en application.
Comme le financement du tramway, on ne sait pas.
Puis aujourd'hui, on est allé une coche supplémentaire par rapport à tout ce qui est alcool et tout ce qui est régie alcool. Samuel Poulain, aujourd'hui, a annoncé qu'on veut revoir le cadre légal entourant la vente d'alcool et la production d'alcool au Québec. Donc ça, la raison pourquoi on veut le faire, c'est qu'on dit que c'est trop compliqué présentement, puis que le cadre légal, ben, il commence à dater pas mal. On dit que ça date de dizaines, voire une centaine d'années, les bases de ce cadre légal-là. Donc, on veut remodifier tout ça pour rendre ça plus simple. Présentement, c'est trois lois qui dictent ce même cadre légal-là. On parle de la loi sur la Société des alcools du Québec, la loi sur les permis d'alcool et la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Ce qu'on veut faire, c'est prendre tout ça, rassembler ça en une loi et simplifier tout. Donc, c'est l'annonce que Samuel Poulain a fait aujourd'hui.
Mais là, on va-tu se scraper à sac?
Ben, c'est ça la question. Est-ce que c'est la fin du fameux monopole? Samuel Poulain tient à préciser que la SAQ est quand même là pour rester.
La SAQ est là pour demeurer. Évidemment, la SAQ sert bien une industrie qui leur permet d'avoir un certain volume, un certain nombre de commandes, d'avoir accès à un grand réseau. Alors, la SAQ sert aussi l'industrie des alcools au Québec. Mais est-ce que dans le processus administratif et réglementaire, il y a des allègements ou des modifications qui peuvent être faites? La réponse est oui.
Je t'en fais le discours de Samuel Poulain. Bien, vous savez, hein, la SAC, ça a rapporté 1,4 milliard au Trésor public, puis on est en déficit de 12,5. C'est le budget demain, donc c'est pour ça que ça va rester. OK, parfait!
maintenant que ça c'est mis sur la table, qu'est-ce qui va changer?
Ouais, comment on va faire ça? On va s'y prendre comment?
Bien, c'est ça. On ne sait pas encore ce qui va être changé. Par contre, c'est un comité indépendant qui va être présidé par Diane Lemieux, une ancienne parlementaire, et France Dionne, qui est la directrice générale exécutive de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ces deux personnes-là, leur comité va faire une consultation un peu partout au Québec avec des artisans du milieu, bien sûr, pour voir qu'est-ce qui doit être changé.
Mais là, on va ça réinventer une patente, là, excuse-moi de l'expression, une patente à gosse qui va être trop compliquée?
Je penserais pas pour vrai. Puis Samuel Poulain, il explique là, le but de ce comité-là, c'est de dire le prochain gouvernement va pouvoir aller de l'avant avec le rapport qui va être prêt le 24 juin.
Maintenant, l'objectif est d'avoir le rapport d'ici le 24 juin. Alors, vous comprenez évidemment que la façon dont l'agenda législatif est fait et l'agenda parlementaire, ce rapport-là peut être travaillé pendant l'été par le gouvernement du Québec. Et à l'automne, le prochain gouvernement pourra certainement mettre en branle le tout. J'avais ça en tête, l'agenda et le calendrier, dès le départ. C'est pour cette raison-là que j'ai souhaité non seulement avoir deux personnes qui sont crédibles, traversent le temps et qui sont capables aussi d'avoir un regard extrêmement rigoureux sur cette industrie-là.
Qui traverse le temps, hein?
Exactement. OK, je refais le discours de Samuel Poulain. Vous savez, on va être battu aux élections dans moi à l'automne. Fait que je veux mettre de la pression sur le nouveau gouvernement. Je fais ma réforme tout de suite.
Ça ressemble à ça. Puis la réforme ne va pas avoir le temps d'avoir lieu. Par contre, un rapport va être disponible. Puis le rapport va être fait de manière indépendante, mm-hmm, en consultation. Donc, je verrais mal le gouvernement par la suite de dire « On prend ce rapport-là, toutes les recommandations sont là,
exactement,
mais on le jette aux poubelles. »
Bon, la question qui tue, nos distilleries, nos microbrasseries, ils en pensent quoi de tout ce processus-là?
Oui, j'ai justement parlé à Pascal Vaillancourt, qui est la directrice et une créatrice de spiritueux chez Ubad Distillerie, pour justement savoir que c'est quoi nos réactions dans le milieu. On précise que c'est une bonne nouvelle, là, l'annonce d'aujourd'hui. C'est une belle ouverture d'esprit de la part du gouvernement. Par contre, je lui ai demandé quel est le changement que le gouvernement devrait effectuer et ça me semblait assez clair.
Tu sais combien de fois, nous, on communique avec la RACJ, on dit, il y a telle chose, on voudrait avoir une précision. Ils sont super aidants, la régie des alcools, des courses et des jeux, vraiment, honnêtement.
C'est lui juste au-dessus, là.
Parfait,
exactement.
Excuse-moi.
Ouais, c'est lui.
Ils nous permettent, dans le fond, de pouvoir vendre, distribuer, promouvoir nos produits, mais de manière plus aisée. Tu sais, on n'est pas sans savoir que quand on vend sur place ou les lieux de fabrication, il y a une majoration qui est prise par la SAQ et ça fait des années que les associations de distillateurs industriels essaient de faire valoir au gouvernement que c'est très contraignant de reverser la part de cette majoration-là à la SAQ, qui représente quand même 52 % du prix de vente, quand la SAQ ne touche pas du tout au produit.
Donc là, vous avez bien entendu, là, lorsqu'on vend un produit, il faut verser 50 % à la SAQ. Mm-hmm. 50 % c'est énorme. Là, on parle, par exemple, d'une bouteille de 34 $ qu'on va vendre. Ben, c'est 17,50 $ qui part directement à la SAQ.
Pour vrai, comment veux-tu être un compétiteur franc dans un dépanneur là, avec 50 % de plus?
Impossible, mais il faut comprendre que ça rapporte 1,4 milliard à l'État. C'est pour ça qu'il y a ces frais-là.
Fait que ça va être intéressant, sans de voir comment on va changer de tout. En plus, on va également changer la paperasse, la lourdeur administrative. J'ai demandé à Mme Vaillancourt, c'est-tu si pire que ça, cette fameuse lourdeur administrative-là?
Tu sais combien de fois, nous, on communique avec la RACJ, on dit, hey, il y a telle chose, on voudrait avoir une précision. Ils sont super aidants, la régie des alcools, des courses et des jeux, vraiment, honnêtement. Tu sais, il y a de la volonté de part et d'autre. Fait qu'ils nous disent, oui, tu peux, non, tu peux pas. Fait que le cadre, d'alléger ce cadre-là, là, c'est sûr que, oui, il est lourd. Puis oui, ça va faire du bien pour tout le monde de comprendre tout ça, puis au moins de pouvoir avoir les coûts des franges, puis avoir moins d'hésitation quand on veut présenter nos produits, les faire découvrir, les vendre.
Si je veux être positif, c'est un pas dans la bonne direction. Je souhaite que le prochain gouvernement continue le travail de Samuel Poulain. Et d'ailleurs, à cet effet-là, est-ce que Pascal Vaillancourt avait de l'espoir que ça se produise bien, le processus?
100%. Il disait que c'est jamais arrivé, du moins de son souvenir, qu'une porte s'ouvre si grand devant une ouverture d'esprit, une ouverture, une écoute de la part du gouvernement. Pour vous donner une idée sur la paperasse, sur la lourdeur administrative, Samuel Poulain a dit que dans son point de presse, que les intervenants gouvernementaux avaient eux-mêmes de la difficulté à comprendre la loi.
Donc, tu vois.
C'est gênant. Mais Jeff, ça
la machine comprend pas la machine.
Ça peut être positif parce que tu dis, si la machine s'est dit on comprend pas la machine, fait qu'on va revoir la machine. Dans ce cas-là, on peut-tu le faire à plus grande échelle?
Exactement.
Sur d'autres choses.
Oh my God.
Que la vente d'alcool à la SAC.
Les 12 travaux de Stérix, qu'on dit. C'est ça. Hein? Mathieu, je te garde.
Yes.
Parce qu'après la pause, il faut absolument parler du match de ce soir, Canadien-Bruins. Les Bruins sont à un point du Canadien, pleine course aux séries. C'est la folie du printemps, Pascal Cévé à Montréal.
Ouhou. On en jase jusqu'à 14h. On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
13h51, je vous rappelle qu'à la météo, il y a quelques endroits sur la route où il y a encore beaucoup de vent, donc de la poudrerie qui peuvent arriver. Sinon, pour demain, ça va être une journée ensoleillée à moins 5 degrés et 0 degrés avec possibilité d'averse de neige pour jeudi. Problème en circulation, Pascal?
Oui, il faut dire que le pont Pierre-Laporte a causé bien des soucis à des gens, surtout à un certain camionneur aujourd'hui, mais c'est toujours assez bloqué, là. Sud et nord, la voie de droite bloquée vu les vents violents.
Le retour de Gravel suit dans quelques instants, donc de 14h à 18h avec Denis, Véro et Audrey. Mais avant, j'ai gardé mon ami Mathias Turcotte en onde parce qu'il faut absolument parler de ce gros match au Centre Bell ce soir. Si jeudi, l'équipe Boulevard va affronter une équipe de Ligue de Garage dans un match exceptionnel au Centre Intact Assurance Centre de Glace. Mais ce soir, au Centre Bell, à l'enjeu, le troisième rang de la division de la section Atlantique entre le Canadien et les Bruins. Mathias, comment tu vois ce match-là?
C'est un match, c'est pas compliqué. Il faut gagner ce match-là, puis j'ai envie de dire, faut gagner tous les matchs cette semaine. On a une course aux séries qui est très, très serrée. Là, on le répète depuis le début de la semaine. Les Bruins et Red Wings et Sénateurs, on a des Blue Jackets qui viennent se mêler de la course avec nous. Ces trois places-là en série vont se jouer entre ces cinq équipes-là. Donc, il faut gagner le plus possible, surtout contre un adversaire direct de notre division. C'est Jakub Dobesch devant le but. Il va falloir qu'il y ait une grosse performance de sa part.
Les Bruins ont gardé Jeremy Swayman pour le match de ce soir. Hier, c'était Corpy Salo qui faisait face aux Devils du New Jersey. Défaite en prolongation de 4-3 des Bruins.
J'ai envie de dire que ce qui va décider de la victoire ou non, c'est notre jeu défensif ce soir. Parce
en
que
effet.
Ça fait plusieurs matchs que Dane Hudson, Mike Matheson, c'est excessivement difficile en zone défensive. On a de la difficulté à garder nos joueurs. On fait beaucoup de revirements, que ce soit en zone offensive ou en zone défensive. Puis on se fait souvent prendre en surnombre à cause de ça. Il va falloir être beaucoup meilleur dans notre propre zone. Si vous demandez à soir, non, Kirby Dack ne joue pas. Il va être absent pour de 2 à 4 semaines. C'est donc Alexandre Texier qui va prendre la place de Kirby Dack sur le troisième trio. Là. Donc Boduc, Evans, Texier. Mais une chose est sûre, ça va être un gros match. Puis ça va être, j'ai l'impression que ça va être une sensation de match de série. Quand on arrive en fin de saison puis qu'on joue pour une place en série, la tension monte toujours d'un cran d'un deux côtés. Fait qu'on a toujours un match plus physique, on a toujours un match plus rapide. Puis les joueurs des deux bords veulent gagner habituellement.
David Pastrnak, le numéro 88, évidemment la grande vedette des Bruins de Boston. 81 points en 62 matchs depuis le début de la saison. Mathias, ce matin, moi j'ai dit victoire du Canadien 4-1 avec un but dans un filet désert parce que j'ai bien confiance que le deuxième match en deux soirs va ralentir les Bruins. Tu y vas avec quelle prédiction?
J'y vais pour un 5-2 Canadien. Je pense que l'offensive va s'amuser à soir.
Ouais, j'ai bien l'impression. Quoi qu'il faut surveiller, Charlie McAvoy, l'excellent défenseur des Bruins de Boston, à le numéro 73. Cole Caulfield est à 2 buts de 40.
Il s'approche dangereusement, hein, puis il n'est pas si loin que ça du premier rang débuteur. Si Cole Caulfield enclenche la machine, si à la fin de la saison, on pourrait le voir gagner à Maurice Richard potentiellement. Là. Je dis pas que ça va arriver. Nathan McKinnon connaît toute une saison, mais ça reste que la saison de Cole Caulfield cette année, c'est impressionnant.
Yes, le retour de Gravel s'amène en onde, notamment à 17h avec Alex Leblon, planificateur financier. Pascal CV, on se parle demain matin dans Marceau le matin. Tu fais le point de Max demain et on se reparle dans l'émission dans Jazz.
Oui, sans faute.
Cool! Passe une belle fin de journée. Salut, guys, restez à l'antenne de Boulevard 102.1. Gravel.